Mes chers collègues, les habitudes sont une force dans la vie. Nous avions d'un commun accord modifié nos horaires pour être libres plus tôt le soir. Ça justifiait en contrepartie une présence au début de séance plus large, plus étoffée et plus tonique. Mais il ne faut jamais se plaindre auprès de ceux qui sont là du défaut des autres. Chacun s'assume dans sa sphère de responsabilité, mais je trouve que c'est dommage. Pour une première à 2h moins le quart, je ne suis pas sûr que ce soit de la faute de la circulation à Nancy, monsieur le maire, pas vraiment. Donc nous allons ouvrir nos travaux. Alors, puisque je vous rappelle que nous avons avancé le bureau à 11h30 pour être libre à midi un quart à peu près, et puis ensuite la séance à 13h30. Toutes les séances du vendredi après-midi, séance plénière, seront, ai-je besoin de le rappeler, à 13h30. Alors, Jean-Michel Berlemont a donné pouvoir à Madame Jussiani, Madame Franceline Denis à Jean-Pierre Urpeau, Michel Dufraisse à Thierry Coulon, qui n'est pas encore là, Mostafa Fourard à Malika Dati, qui elle est là, Madame Gavrilov à Serge Bouly, Elisabeth Laitier à Mathieu Dapp, que je n'ai pas vu encore, Madame Sophie Mailleux à Laurent Hénard, Olivier Mergot à Valérie Jurin, qui est là, je crois, Jean-François Midon à Éric Pancelfini, Madame Danielle Noël au docteur Sonia Sadoun, Madame Piccoli Anne-Marie Antoine, Franck Pilser à Madame Lucienne Redercher et Didier Sartelet à Michel Canda. Par ailleurs, Annie Lévy-Sifferman, jusqu'à son arrivée, a donné pouvoir à Hervé Ferron. Christine Simonet, Mario Dilgan, jusqu'à son arrivée, a donné pouvoir à Madame Rouillon. Madame Christine Simonet a donné pouvoir à Monsieur Michel Breuil. François Werner et Valérie Debord, retenus impérativement à la région, arriveront en cours de séance et ont donné pouvoir en attendant. François Werner à Nathalie Angèle. Valérie Debord au président, Sylvie Petiot jusqu'à son arrivée à notre collègue et ami Gilbert Thiel, Henri Bégor jusqu'à son arrivée à Pierre Boileau. J'espère que je n'ai oublié personne. Alors, la première question, qui est longue d'ailleurs au demeurant, qui permettra d'évoquer beaucoup de choses, c'est l'adoption du projet métropolitain dont j'ai l'honneur d'être le rapporteur. Mes premiers propos seront d'ailleurs, puisque c'est une œuvre collective, importante, c'est la deuxième fois qu'elle revient devant notre Assemblée pour son adoption. Il y avait eu un échange, il y avait eu une vision très large des problématiques. Et nous avons aujourd'hui un document qui a été largement diffusé depuis longtemps, sur lequel vous avez pu les uns et les autres méditer, critiquer, proposer. C'est l'objet de cette ultime séance sur ce projet. Ce qui ne veut pas dire que la démarche projet est terminée, je vais y venir. Mais en tout cas, je voudrais saluer tous les élus, tous les collaborateurs, toutes celles et tous ceux qui, dans les secteurs socio-professionnels de la société, ont été consultés, ont donné des propositions, des amendements et se sont profondément investis, apportant la preuve, s'il en était besoin, qu'il s'agit non pas d'un projet de territoire banal, mais de notre premier projet métropolitain, qui est un projet de société, de toute la société. C'est un projet qui va permettre de franchir des étapes, il y en aura beaucoup d'étapes électorales ces temps-ci, et s'y aura pour objet justement de s'incruster dans le temps. Et je vais vous faire des suggestions pour que, au-delà du vote de ce soir, nous puissions avoir des pistes, des chemins métropolitains à parcourir ensemble, qui, sur 4 ou 5 grands sujets, nous donneront l'occasion d'affiner les choses, de définir des objectifs plus concrets et de faire en sorte que, de cette vision prospective, avec une certaine hauteur de vue, nous sommes, je pense, de ce que je vois au niveau national, la première métropole à engager une réflexion de ce type. Nous sommes donc bien là dans une démarche de prospective, d'humanisme, de réflexion diversifiée et avec un portage politique qui est celui de notre Assemblée. En effet, dans la période où on a un regard à la fois sur l'avenir, mais aussi sur ce qui s'est passé, puisque nous sommes dans la perspective de la célébration en 2019 du 60e anniversaire de l'intercommunalité du Grand Nancy, qui était un district, nous donne l'occasion de prendre la mesure du parcours exceptionnel qui a été celui de notre territoire depuis 1959. District, nous avons été ensuite communauté urbaine et l'obtention du statut de métropole dans le cadre des dispositions de droit commun a constitué une forme de reconnaissance par les plus hautes autorités de l'État de la réussite dans la durée de notre intercommunalité. Au-delà de cette satisfaction largement partagée, apparaissait la conscience que cette nouvelle marche impliquait un niveau de responsabilité nouvelle et particulière. Responsabilité nouvelle en matière de rayonnement, de croissance, de développement économique et de solidarité territoriale. La prise de conscience de ce changement de braquet n'a pas été immédiate. Je voudrais dire d'ailleurs qu'autour de nous, les choses ont beaucoup bougé dans les années précédentes. Il y a eu la réforme de l'organisation territoriale des régions et les responsabilités nouvelles, notamment économiques, des régions. Nous avons eu la réforme des départements qui ont perdu la compétence en matière économique et en matière, je dirais, de voies ferrées, transport. Et on voit bien également que de nouvelles formes d'organisation des territoires sont aujourd'hui en train de fleurir un peu partout. Nous avons été des précurseurs avec la création du sillon lorrain, c'est-à-dire du pôle métropolitain regroupant l'agglomération de Thionville, celle de Metz, celle de Nancy et celle d'Épinal. C'est une conurbation d'1,2 million habitants. C'est aussi la montée en puissance des intercommunalités, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de communes en France qui ne soient pas membres d'une intercommunalité. C'est dire qu'entre les agglomérations, métropoles, communautés urbaines et les intercommunalités dans les territoires, toute la France est recouverte d'un tissu d'intercommunalités. Ce qui veut dire que l'avenir de la réflexion, l'avenir des stratégies, puisque les intercommunalités, qu'elles soient grandes ou petites, ont la compétence économique, toutes, et par conséquent, beaucoup de gros dossiers de développement vont se jouer au niveau, je dirais, de cet accord entre les intercommunalités, les agglomérations, les métropoles. Cela veut dire qu'il y a un déplacement de responsabilité. Et que sur ces bases-là, nous savons que l'unité de la République et des territoires se jouera demain, très vite, au niveau de l'ensemble des intercommunalités. La région se dessine comme un partenaire nouveau, encore plus puissant, pas seulement une question de taille territoriale, mais dans quelque temps, nous aurons assigné notre contrat de développement avec la région du Grand Est, avec le président de la région du Grand Est, Jean Rottner, qui viendra à Nancy pour signer cet engagement de la région au bénéfice de notre territoire. C'est donc une prise de conscience de ce changement de braquet, même dans le sud du département, l'émergence d'une multipole que nous devons une bonne entente entre les intercos, au travail de l'ancien président de la multipole, Jean-François Husson, au relais qui a été pris par le président de Lunéville, et demain au relais qui sera pris par le président de l'interco de Neuf-Maisons. On voit bien que nous sommes aujourd'hui dans des mouvements qu'on n'envisageait même pas. Tout le monde imaginait la cristallisation solidifiée de l'ensemble des communes et des intercos. Aujourd'hui, c'est un monde en mouvement. Personnellement, je m'en réjouis. J'ai tout fait pour que cela aille dans ce sens, parce que d'abord, c'est le mouvement. Ensuite, c'est une certaine façon différente de travailler, de chercher des convergences. Et pour beaucoup de décisions dans ces intercos, elles sont prises à l'unanimité. Ce n'est pas un problème de rapport partisan. C'est un état de fait aujourd'hui. Alors, l'objectif à travers le projet métropolitain, c'est de faire partager cette ambition avec tous les élus de ce territoire. Nous aurons avant la fin de l'année la réunion de tous les conseillers municipaux des 20 communes de l'agglomération. Et dans cette perspective du Grand Est, il y a en plus un élément qui est venu se greffer, dont vous entendez beaucoup parler. C'est le rapport du préfet Marx qui vient à point nommé pour nous dire ce qui se passe en Alsace et que d'aucuns voudraient voir se réaliser en Alsace. C'est un sujet que nous suivons de manière subtile et forte dans le cadre du Sillon Lorrain, et j'indique que dans quelques jours, les membres du bureau du Sillon Lorrain seront reçus par la ministre en charge à côté du ministre d'État des collectivités. L'élaboration du projet métropolitain donc est le fruit d'une démarche inédite, d'une véritable co-construction avec les élus des territoires, mais aussi, et j'insiste sur ce point, avec les agents de la métropole et les acteurs du monde social et économique du Grand Nancy. Cette démarche, nous dirait, nous avons pris 2 ans, puisque la métropole a été créée dans cette enceinte début juillet 2016. Vous voyez que à la fois ça peut paraître long, mais nous n'avons pas perdu de temps. Elle doit se poursuivre sous d'autres formes afin de faire naître une véritable dynamique métropolitaine. C'est le sens précisément de ce que l'on a qualifié de chemin métropolitain, des chemins que nous allons ouvrir ensemble sur un certain nombre de pistes que l'on parcourt ensemble pour écrire dans la durée l'histoire d'un territoire et faire ce qui n'est pas spontanément évident, société métropolitaine ensemble. Ces chemins, il nous faut maintenant les ouvrir, il nous faut proposer des outils afin que chacun des acteurs, des citoyens, des élus, se sente acteur et ambassadeur de la construction de cette société métropolitaine. Le projet métropolitain est avant tout une ressource à la fois intellectuelle et politique, et non un aboutissement d'une pensée collective. J'estime à titre personnel, mais je pourrais me tromper parce que les points de référence sont rares en ce moment là-dessus, sa ligne d'horizon est le temps long, 10 à 12 ans, un temps long nécessaire à la construction de projets structurants, des projets qui transcendent les rendez-vous électoraux, je redis, des projets qui doivent transcender les rendez-vous électoraux. Et avant d'aborder la méthode et les outils d'animation, 4 démarches essentielles, directement issues de ces réflexions, doivent être activées. Premièrement, la poursuite des initiatives pour inscrire l'action de la métropole dans un cadre institutionnel élargi. Nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, en partenariat avec les intercos du sud du département, avec le Sillon Lorrain. Mais je pense que dans cette alliance des territoires, nous devons aussi commencer à regarder auprès de nous, très proches, avec les intercommunalités qui sont autour de notre métropole. Nous avons là deux sujets forts qui nous permettent d'ouvrir ce débat. D'abord, les mobilités. Et nous avons, je dirais, inscrit avec le syndicat mixte des transports entre, je dirais, la métropole et les trois intercommunalités de Pompey, Neuve-Maison et Dombasle, à la fois des schémas, des études et certainement des inflexions liées à notre propre projet de déplacement. On parle là plutôt de bassin de vie. Et pourquoi est-ce un bassin de vie ? Parce que bien souvent, ce sont les activités économiques de Pompey, de Neuve-Maison, Dombasle ou autres qui ont financé le bassin de Nancy, qui, je le rappelle, parce qu'il faut toujours s'inscrire non seulement dans l'histoire, mais un peu dans le sous-sol. Le bassin de Nancy était un bassin ferrifère, mais aussi un bassin salifère. Et ce qui se passe sur Neuve-Maison, même s'il y a encore de belles pépites de ces temps de l'industrie sidérurgique, dans le bassin également de Dombasle, mais aussi sur le bassin de Pompey. Et c'est par le lien économique que nous pouvons retrouver une légitimité de travail avec ces bassins et à ce moment-là réfléchir un jour, le moment venu, j'ai pas de remède, j'ai pas de calendrier, à l'élargissement légitime de notre périmètre métropolitain. Ensuite, l'animation de l'écosystème métropolitain. Vous avez un collectif d'acteurs qui forme un système extrêmement magnifique, le renforcement de la coordination des acteurs économiques, la création d'ailleurs de la SEM Henri Poincaré pour animer les 600 hectares entre la rue du Sergent Blandan, Martem et l'autoroute périurbain. Nous avons là aujourd'hui des grands dossiers et à partir de l'exemple de TIGA, des hommes et des armes, les thématiques des matériaux du futur et du numérique apprivoisé pourraient être abordées selon une méthodologie similaire mais adaptée à chacune d'entre elles. Enfin, l'inscription du projet métropolitain dans les territoires de proximité du Grand Nancy et la jonction, je dis pas, avec Michel Canda, des travaux que nous menons sur le PLUI et nos intercommunalités voisines nous ouvrent des perspectives intéressantes. Nous avons, et c'est le moment logique, un débat aujourd'hui et dans les semaines à venir sur le rayonnement de la métropole par rapport à la mise en œuvre de notre stratégie de marketing territorial que nous propose Laurent Hénard, par le renforcement de notre visibilité dans l'espace européen et à l'international, et bien faire et faire savoir, c'est aujourd'hui une rencontre chronologique tout à fait intéressante. Nous allons lancer et délibérer sur une campagne d'attractivité et dans un deuxième temps, tous les champs de l'attractivité, économie et résidentielle, enseignement supérieur et recherche, culture, sport et loisirs, vie étudiante, seront investis et profiteront d'un plan d'action dédié. Je pense que l'adoption du projet métropolitain ouvre une nouvelle phase, résolument active et offensive, de réflexion et d'action. J'ai horreur qu'on puisse expédier les affaires courantes dans des moments aussi importants et délicats que ceux que nous vivons et allons vivre, et tout se prépare. C'est ainsi que la rédaction de cahiers métropolitains thématiques dans le cadre d'ateliers des chemins métropolitains pourrait prolonger cette démarche d'enrichissement de nos chemins métropolitains. D'ores et déjà, nous pouvons imaginer en lien avec la préparation du PLUI la rédaction d'un cahier métropolitain par grand territoire d'enjeu et de même la stratégie d'attractivité et de marketing territorial se conçoit naturellement comme une déclinaison du projet métropolitain. Enfin, les agents de la métropole et tous les organismes associés à la métropole, en interface avec les élus, sont les premiers promoteurs et ambassadeurs du projet. Cette phase de mobilisation concerne en premier lieu l'équipe de direction et je voudrais ici, sous l'autorité de Pierre Stucci, saluer son travail. Une démarche et une méthode spécifiques sont ainsi mises à l'œuvre et ont produit de magnifiques résultats. Cette mobilisation est plus largement l'affaire de l'ensemble des agents. Faire réfléchir nos collaborateurs, mais je pense que le problème est le même dans chacune des communes, faire réfléchir nos collaborateurs aux perspectives ouvertes par le projet et les interroger sur la place et le rôle qu'ils doivent en souhaitant jouer leur avenir à la fois de l'institution et du territoire, constitue aujourd'hui un exercice incontournable si l'on veut faire des agents des prescripteurs. Cette démarche concrètement pourrait se concrétiser sous forme ici aussi d'ateliers des chemins métropolitains sur la base de 4 à 5 thèmes mobilisateurs et transversaux. La thématique transversale du développement durable qui irrigue les défis du projet métropolitain a été identifiée comme exemple d'une telle approche. Enfin, mes chers collègues, le projet métropolitain ne sera entré dans les faits et dans les actes que lorsque chaque élu, chaque collaborateur, chaque acteur de l'écosystème métropolitain pourra s'y reconnaître et y inscrire sa propre stratégie et sa propre action. Un moment de partage collectif, je vous le disais tout à l'heure, pourrait être programmé dans le cadre des initiatives que prendra la collectivité au sujet et que nous prendrons du 60e anniversaire fin 2018 et 2019. Ce que je vous propose maintenant pour l'organisation de notre débat, ben oui, mais j'allais le dire, c'est pas, c'est bien, j'ai un très bon cabinet. Le déroulé du Conseil métropolitain imaginé en juillet dernier reste d'actualité, puisque vous savez que pour cause, je dirais, de l'équipe mondiale de football, il n'y a pas qu'à l'Élysée qu'on a différé des sujets pour parler, il y a aussi chez nous. Je vous propose la présentation d'une petite vidéo, 4 minutes, rappel succinct des séminaires élus, agents et acteurs de la société. Mon intervention pour rappeler le sens de cette dynamique collaborative de la société métropolitaine. Puis nous aurons une présentation des 4 défis par plusieurs de nos collègues. Serge Bouly pour le défi de la cohésion des acteurs publics. Bertrand Kling pour le défi de l'audace. Valérie Jurin et Eric Pansalfini pour le défi de la santé et du bien-être. Et Madika Dati pour le défi des liens. Nous aurons à prendre connaissance de quelques mots de Dominique Valque au titre du président du Conseil en développement durable, puis un débat dans notre enceinte sur, je dirais, tous les sujets sont à l'ordre du jour, naturellement, y compris les sujets d'actualité récente ou à venir. Voilà, alors, il y a une vidéo, me dit-on. Allez, envoyez la vidéo.
C'est de revoir la vie, de revoir la place de l'arbre dans la vie, d'avoir des espaces où on peut se reposer, où on peut se promener.
Travailler ensemble à votre projet.
Qu'est-ce que vous êtes grand pour construire ensemble? Et on le réalise, on l'aboutit ensemble.
Je pense que c'est important de parler ensemble parce que moi-même, je me sens actrice du territoire. Et je pense que des matinées comme ça, ça fait 2 ans personnellement aujourd'hui.
Et
bien, à chaque fois, je me suis
sentie
concernée.
Sur la mutualisation, il fallait souvent mutualiser des services, que c'est compliqué de s'y retrouver.
Il y a combien de gens qui sont dans des communes qui tournent autour de la métropole et qui sont directement concernés par le travail, les études, la santé, les loisirs, le sport, enfin tout, c'est écrit ça.
Il n'y a pas d'intérêt métropolitain s'il n'y a pas d'intérêt communal et inversement. Donc, je pense que les grands projets qu'on peut avoir. Dans la métropole, ils
sont
forcément sur
le territoire. Je trouve intéressant qu'on a découvert de manière concrète des espèces d'hybridation entre la lumière et les petits gars, entre le thermalisme des choses et les musées, enfin, et d'approuver des ressources de chaque chose dans l'autre.
Qu'est-ce qu'il faut que je transforme dans mon service pour mettre en place
le projet
de la
cette méconnaissance finalement a couvert mon projet.
Chez toi là. Il y a des gauchers.
Si on n'ouvre pas ce cyclone qui va de Luxembourg à Épinal Saint-Denis, etc., on n'est pas capable. Le 3 décembre, on est
sur le train. Sur le train, par contre, on a été sollicité. Le service archive a été sollicité parce qu'en 1909, il y avait déjà un tram-train qui allait jusqu'à Saint-Denis.
Donc il y a la communication à faire, je pense que c'est une communication humaine.
Et dans la concurrence humaine, il y a la partie cœur.
Marché.
Je pense qu'aujourd'hui, il faudra obligatoirement que nous fassions les choses avec cœur, avec passion, pour savoir réfléchir. Là, on a fait ça.
Ça fait mieux de comprendre que les problématiques étaient les mêmes partout, même si économiquement
qui va tousser, là.
Psychologiquement, vous n'avez pas forcément les mêmes.
Mimi.
Il y a une multitude de sujets où il faut améliorer la situation existante, tout en étant précisé que la situation existante est quand même pas un problème, soit on n'est pas ultra en retard, ce genre de choses. Mais simplement, il va falloir que ce territoire soit plus attractif d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue de la vie de tous les jours. Et ça, c'est ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui et ce sur quoi la métropole va travailler aujourd'hui pour demain.
Merci, hein. Ça va ? Quoi ?
Vous pouvez faire des coupures.
Non, il n'y a pas eu de coupure par les services secrets. Alors, Monsieur le Président Bouly.
Monsieur le Président.
Cohésion des acteurs publics.
Mes chers collègues, je ne vais pas faire preuve d'audace cet après-midi dans mon intervention, quoique. Je ne vais peut-être pas créer des liens, même si j'aimerais. Je verrai si je ressens du bien-être après mon propos. Toujours est-il que je vais éluder ces 3 premiers défis participant à la trame du projet métropolitain pour me consacrer essentiellement au 4e. Je pense en effet que sans la cohésion des acteurs publics, la vision d'avenir qui nous est proposée en empruntant les chemins métropolitains serait diminuée d'une partie de sa substantifique moelle. Nous ne partons naturellement pas de rien en matière de cohésion des acteurs publics dans nos territoires, même si celle-ci nous semble parfois discutable. Cependant, pour l'amplifier, je pense qu'il nous faut émerger une synergie métropolitaine afin que s'installe dans les esprits une conscience de territoire plus forte qu'elle n'est. Il faut donc mettre de côté les chapelles et leurs querelles dépassées à l'heure des évolutions territoriales récentes et qui viendront inéluctablement. Grâce à cette synergie, les acteurs publics présents se reconnaîtront et se positionneront dans le cadre d'actions concertées et partagées. Je suis en accord avec le texte du document de travail lorsqu'il dit globalement que la cohésion des acteurs publics recherchés ne peut pas être uniquement le fait des communes et de la métropole, mais qu'elle doit naturellement être étendue aux structures supracommunales jusqu'à l'État, mais aussi à l'université, à la CCI métropolitaine et à toutes les forces vives qui font l'essence de notre territoire et des territoires voisins. C'est ce que le président Rossino appelle la société métropolitaine. En ce sens, le projet métropolitain doit être le projet de cette société métropolitaine. Il ne pourra pas se résumer uniquement aux documents synthétiques élaborés, fût-il très intéressant. Il devra vivre et évoluer au cours du temps, porter une dynamique du territoire. Il devra être pleinement habité par l'ensemble des acteurs publics et privés, mettant en cohérence et en mouvement l'ensemble des intelligences, des énergies et des ressources qui les caractérisent au service d'un seul et même mouvement. De fait, un nouveau champ des possibles pourra s'ouvrir, permettant de créer ainsi une espèce d'alchimie des territoires ambitieuse et puissante. Le projet en étant, si je peux me permettre l'image, la pierre philosophale. De façon pragmatique, il s'agira pour nous, élus et acteurs publics engagés, de continuer à faire évoluer les pratiques en réfléchissant aussi à des modes de gouvernance plus horizontales, dépassant les frontières institutionnelles pour permettre notamment l'intégration efficace des acteurs socio-économiques dans les processus prédécisionnels. La dynamique du territoire en serait renforcée. Cette volonté de faire ensemble a animé les premières étapes de coproduction de ce projet. On vient de le voir d'ailleurs dans le petit film. Il s'agit d'aller plus loin dans les déclinaisons avec comme exigence collective conjuguer nos forces pour faire triompher l'intérêt métropolitain. Œuvrer pour la cohésion des acteurs publics, c'est aussi, selon ma lecture, vouloir affirmer une identité partagée. Au-delà des grandes orientations stratégiques, se pose évidemment la question de la capacité de mobilisation des acteurs. Cette mobilisation sera d'autant plus simple qu'elle s'inscrira dans la reconnaissance du rôle de chacun et qu'elle sera aussi en mesure de décloisonner les murs institutionnels et leurs effets frontières que chacun connaît et peut vivre. Nous devons être aujourd'hui en capacité d'affirmer une véritable identité métropolitaine, une identité de territoire qui ne soit pas seulement un slogan pour une campagne de com, mais une identité au travers de laquelle élus, décideurs publics, acteurs privés, sociétés civiles, administrés et de manière plus globale, les citoyens se reconnaîtront et trouveront les justifications et la légitimité de leurs efforts et contributions au projet métropolitain. Par ailleurs, c'est grâce à son esprit novateur et à l'ancrage du projet dans une vision prospective que les acteurs publics sauront caler, chacun à leur échelle, leurs propres agendas pour les années et décennies à venir. C'est donc un grand défi qui nous attend et qui attend ceux qui seront en charge de la destinée métropolitaine dans le futur. Aussi, je crois, mais je peux me tromper, que la cohésion des acteurs publics ne pourra s'exempter d'une gouvernance repensée. Il nous faut aujourd'hui renouveler nos pratiques dans un monde qui va très vite, qui va parfois même trop vite et qui n'accorde bien souvent plus assez de temps à la réflexion en profondeur. Cette évolution dans les exécutifs chez les acteurs publics est en route et, au risque de provoquer un peu, je crois qu'à l'avenir, les élus que nous sommes et ceux qui nous succéderont ne seront plus d'abord perçus comme les représentants d'un parti ou d'un groupe politique, mais qu'ils seront considérés comme les porteurs et les garants des idées des habitants de leur territoire. L'audace est le premier des quatre défis du projet métropolitain. Alors je pose une question. La création d'une vaste commune nouvelle ne serait-elle pas pertinente eu égard au niveau d'intégration de notre territoire ? Dès lors, le projet métropolitain et son défi de la cohésion des acteurs publics ne pourrait-il pas devenir une sorte de facilitateur, pour ne pas dire un catalyseur, permettant d'ouvrir la voie à l'idée d'une fusion consentie pour former une seule entité qui serait à la fois ville et métropole du Grand Nancy? Est-ce une utopie au sens premier du terme, à savoir imaginer un territoire de bien-être et d'audace où régnerait une gouvernance idéale au service d'un peuple heureux? C'est la définition de l'utopie. Je vois des sourires, des visages interrogatifs, quelques grimaces aussi, mais après tout, ne dit-on pas que rien de grand ne se fait sans chimère? Dans le même esprit, en considérant le fait que notre force d'attractivité et de rayonnement s'exprime sur un territoire beaucoup plus vaste que celui de la métropole actuelle, ce qui est incontestable, le projet métropolitain doit concourir à esquisser une sorte de cadre idéal de refondation de nos logiques de territoire plus ou moins étriquées au profit d'un périmètre plus vaste afin de faire mieux ensemble pour tous. Les mobilités, l'eau, les déchets, l'économie, la santé, le numérique ne peuvent s'arrêter à nos limites territoriales et des liens existent d'ailleurs déjà avec un certain nombre de nos voisins. L'intelligence des territoires dont on parle souvent ici doit être à même de renforcer le projet métropolitain, car les territoires possèdent une capacité de résilience permettant d'agglomérer leurs énergies, combinées notamment à celles des acteurs privés autour de projets novateurs. L'intelligence collective n'est, à n'en pas douter, un facteur de cohésion des acteurs publics. Si les grandes idées n'usent a priori qu'un peu de matière grise, elles ont pour mérite d'ouvrir le débat, lequel ne saura demeurer au stade des réflexions et des utopies. Quel que soit son avenir et son évolution, le projet métropolitain devra se confronter au final au principe de réalité, notamment financière, lequel, vous le savez, finit toujours par l'emporter. C'est peut-être d'ailleurs ce principe qui participera in fine à la réussite ou pas de la cohésion des acteurs publics. Mais naturellement, c'est d'abord le dialogue, la confrontation d'opinions avec les intercos voisines, le Sud 54, le Sillon Lorrain, le département, la région, l'État et les forces vives partenaires qui permettront d'avancer et d'être efficaces dans la gestion des dossiers qui concernent notre territoire métropolitain actuel ou futur. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président. Bertrand Kling, pour le défi de l'audace.
Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Un peu d'histoire. Depuis Charles III, la Renaissance, puis les Lumières avec la bibliothèque publique créée par Stanislas, ou encore l'école de Nancy avec l'Art Nouveau et plus proche de nous, le doyen Jacques Parizeau, cofondateur de l'OMS, ou encore Jean Prouvé, concepteur d'avant-garde, jusqu'à Artem aujourd'hui, l'audace fait partie de l'ADN grand nancéen. Cet esprit d'audace, il faut le revivifier. Il y a nécessité, croissance démographique ralentie, diminution de l'emploi, économie fondée principalement pour une large part sur les revenus publics. La première ambition est de relancer l'activité entrepreneuriale. Pour cela, il s'agit de mobiliser tous les acteurs de la métropole autour d'une stratégie d'attractivité et de marketing territorial et développer la notoriété de la marque Grand Nancy sur la scène nationale mais aussi européenne. C'est encore imaginer une nouvelle école de Nancy, en faisant du Grand Nancy la capitale de l'innovation systémique. C'est par exemple les matériaux du futur dans un monde fini. Ce thème renvoie aux compétences de niveau international du Grand Nancy dans ce domaine, avec l'Institut Jean Lamour et le Forum mondial des matériaux, appelé également Davos des matériaux. Le numérique, les compétences de niveau européen de Nancy et du Grand Nancy en cybersécurité, les réflexions sur l'humanisme numérique initiées ici par le Grand Nancy en 2016, l'écosystème numérique Lorentech ou Artem en sont des exemples. Une autre thématique, la forêt avenir de la planète et des hommes. Par exemple, avec le projet des hommes et des arbres, les racines de demain, labellisé territoire d'innovation et de grande ambition. Ce label en France dans le cadre du programme des investissements d'avenir. Être audacieux, c'est aussi tendre vers une métropole écologiquement responsable. Nous le savons aujourd'hui, l'activité humaine accélère dangereusement les changements climatiques. C'est pourquoi il nous faut donc inventer de nouveaux modèles de production, de consommation, plus sobres en énergie, ouverts au partage, à la valorisation de la nature en ville, avec la mobilisation de tous. Être audacieux, c'est aussi lutter contre l'exclusion sociale et imaginer, au-delà des mesures classiques, des réponses inédites avec les acteurs sociaux, mais pas seulement, également les associations et les citoyens. Enfin, c'est faire métropole en lien avec le territoire sud-Lorraine pour une nouvelle destination touristique. Les atouts sont nombreux en patrimoine bâti et également en patrimoine naturel. D'autres atouts sont à venir. Et le projet Grand Nancy Thermal s'inscrit dans cette continuité. L'audace sera de le réussir collectivement. L'audace, c'est également sur ce dossier de savoir entendre les questionnements et les inquiétudes tout en y répondant précisément et patiemment. Pour faire de la métropole une nouvelle destination touristique, de meilleures infrastructures de déplacement seront demain une réalité. Le contournement de Malzéville, il en fallut de l'audace et de la volonté. Pour sortir ce dossier collectivement, nous l'avons fait. La voie de la Meurthe, c'est la même chose. Et demain, un tramway pour la future ligne 1, moderne et efficace, qui partira de la Porte Verte à Essay jusqu'à Brabois. Donc pour résumer, le projet, c'est une ressource. Ce n'est pas un document fini et ces 5 objectifs à atteindre, je vais les redonner et les résumer. Faire de la métropole une capitale de l'innovation systémique, rendre la métropole entreprenante, tendre vers une métropole écologiquement responsable du XXIe siècle, affirmer l'audace sociale grande nancéenne, faire de la métropole et du sud de la Lorraine une nouvelle destination touristique. Merci.
Merci à Bertrand Kling, Valérie Jurin et Éric Pensalfini.
Monsieur le Président, mes chers collègues, placer le bien-être au cœur du développement de notre métropole, c'est nous inscrire dans une tradition. D'autres, avant nous, l'ont fait, tel Stanislas qui, dans sa formule si simple et si efficace, nous enseignait que le vrai bonheur consiste à faire des heureux. Cet héritage, cette réflexion autour du bonheur qui a nourri jusqu'à l'obsession la pensée du siècle des Lumières, nous nous devons de les perpétuer avec pragmatisme et audace. Le bien-être est certes une notion complexe, subjective, relevant tout à la fois de l'individuel et du collectif et mobilisant une pluralité de dimensions, tout à la fois physiques, sensorielles et psychologiques. Y concourent la santé, la sécurité, le niveau de vie, la qualité de l'environnement urbain, la cohésion sociale, les interactions sociales, la proximité des services, le contact avec la nature, voire le désir d'un certain retour à la terre. Dans le temps qui m'est imparti, je m'attacherai à deux de ces composantes, la santé et la cohésion sociale. Le lien entre bien-être et santé, les liens en tous les cas, sont naturels entre ces deux notions, notamment depuis 1946 où l'OMS, le doyen Parisot, définit la santé comme un état complet de bien-être. Forte de sa tradition en matière de santé publique, de son maillage d'établissements de santé publics et privés performants, de ses plateaux techniques et de ses laboratoires de recherche de pointe, riche aussi de l'expertise de nombreux chercheurs, universitaires, professionnels de santé et d'un tissu économique leader dans ce domaine, notre métropole doit poursuivre la valorisation de ses atouts, favoriser encore les complémentarités d'acteurs afin d'améliorer la santé de tous. Agir avec volontarisme sur les déterminants de la santé, lutter contre les inégalités territoriales et sociales de santé, permettre un égal accès aux soins, aider au croisement des préoccupations environnementales et sanitaires, tel est l'objectif que nous souhaitons atteindre. À ce titre, deux évolutions sont à prendre particulièrement en compte. Tout d'abord, aujourd'hui, les grandes épidémies ne sont plus infectieuses, mais métaboliques, en lien avec nos modes de vie plus sédentaires. À l'échelle mondiale, l'incidence du diabète ou de l'obésité ont doublé depuis le début des années 80. Si bien qu'après s'être étiolé, le lien entre urbanisme et santé revient en force et doit se traduire dans notre façon de concevoir et de planifier notre urbanisation. Parallèlement, il devient de plus en plus évident que notre santé personnelle ne saurait être déconnectée de celle des animaux, de celle des plantes que ces derniers mangent et de la santé des sols qui les portent. Les êtres humains, pas plus que les animaux ou les plantes, ne fonctionnent de manière autonome. C'est ce que de plus en plus de scientifiques appellent la santé unique, qui lie la santé humaine, la santé animale et la santé de l'écosystème. À nous de prendre la mesure de ces bouleversements. Quelques mots enfin sur la cohésion sociale. Je reprendrai une formule que vous connaissez peut-être, qui est tirée de Into the Wilds, un film qui a été fait par Sean Penn. Le bien-être ne peut être atteint s'il n'est pas partagé. Nous ne pouvons vivre bien si d'autres, à côté de nous ou plus loin, vivent dans le mal-être. De même, nous ne pouvons vivre bien si c'est aux dépens des générations futures, en léguant à nos enfants ou petits-enfants un monde incertain aux ressources appauvries. Il nous revient donc de faire de la recherche du bien-être un levier pour construire une métropole plus inclusive, plus équitable et plus durable. Et puisque nous devons nous engager à travers cette démarche de projet sur les chemins métropolitains, suivant les conseils d'Émilie du Châtelet dans son discours sur le bonheur, ils sont intéressants parce qu'ils sont simples. Pour être heureux, Il faut s'être défait des préjugés, être vertueux, se bien porter, et surtout, il faut trouver sa route. La route est tachée de la semée de fleurs.
Merci, monsieur l'homme des sports. Ouais.
Bien, monsieur le président, chers collègues, permettez-moi de vous dire combien j'ai été heureux de participer modestement à ces échanges vraiment très intéressants, et j'ai décidé un petit peu de changer, finalement, à l'écoute de mes collègues qui sont passés juste avant moi, peut-être de commencer mon propos d'une façon un peu différente. Finalement, monsieur le président, l'audace consisterait peut-être à dire une métropole du paraître, c'est bien, mais une métropole du bien-être, c'est mieux. Et comme a évoqué le tramway mon collègue Bertrand, comme le tramway, monsieur le président, ne pourrions-nous pas nous appeler une métropole nommée Désir ? C'est probablement là aussi de beaux défis. Évoquer le défi du bien-être dans un territoire de vie comme celui du Grand Nancy, c'est solliciter pour l'occasion quelques fondamentaux de la géographie. Une géographie qui nous rappelle qu'au-delà de l'appellation même du concept de territoire, nous sommes à l'évidence en présence d'un œcumène, un mot tiré du grec ancien, et qui se comprend comme l'espace de vie anthropisé de nos sociétés et dont l'étymologie volontaire simplifiée nous renvoie à la notion très imagée de la maison de l'homme. Une maison, oikos toujours en grec ancien, que tout à chacun désire confortable, propre, agréable, aérée, belle, nature, on en a parlé, et prospère, pour y trouver le meilleur bien-être. Tout cela pour vous dire combien ce défi du bien-être, particulièrement dans notre métropole, ne doit pas être abordé comme une option ou un supplément de confort qui viendrait après les gros dossiers traditionnels de l'habitat, de l'économie, des mobilités, pour ne citer que cela, mais qui doit s'inscrire tout au contraire comme un principe majeur dans l'élaboration de nos politiques publiques et dans la conception de nos documents stratégiques d'orientation et, a fortiori, le projet métropolitain. En l'occurrence, un territoire dans lequel les espaces d'urbanité se trouvent être harmonieusement articulés aux zones naturelles environnantes, ce doit être un objectif fort de notre politique du bien-être portée par le projet métropolitain. Riche de ses vastes poumons verts que constituent, entre autres, le massif de la forêt de haies et l'omniprésence de l'eau à travers les boucles de la Moselle et le cours de la Meurthe, notre histoire, notre territoire et évidemment ces hommes et ces femmes doivent être en mesure de porter la marque originale d'une métropole nature, devenue référence à l'échelle nationale en matière d'écologie urbaine, ce qui fondamentalement nous différenciera des autres métropoles. Oui, car en effet aujourd'hui, dans la course à l'attractivité que se livrent les métropoles, le Grand Nancy doit trouver son originalité propre. Il est évident que nous ne serons pas en mesure de concurrencer Marseille, voire Brest sur la mer, Montpellier pour le soleil, Grenoble pour la montagne, Lyon pour la cuisine et l'attrait général, Levain pour Bordeaux et Dijon, ou, sur le ton de la plaisanterie, vous me le permettrez, monsieur le président, avec une blague bien de chez Républicains, Nice pour Estrosi. Pour résumer, je dirais qu'il faut se démarquer à travers le vecteur du bien-être, un défi que nous n'avons pas d'autre choix que de réussir pour marquer durablement notre place dans le concert des métropoles. Et n'en déplaise à certains, Grand Nancy Thermal en sera l'un des projets emblématiques. La démarche marketing territoriale, en l'occurrence, dont les résultats sont très attendus, viendra certainement confirmer mon propos. Le bien-être, c'est aussi toute la force d'un dynamisme culturel nancéen qui n'est plus à présenter, et la promotion du sport déclinée à tous les niveaux et à tous les âges de la vie. Le sport pour tous, comme élément de santé publique, moment de cohésion sociale, d'éducation citoyenne, de rapport au corps, doit être pleinement accompagné par la métropole, par notre métropole, qui doit également se distinguer de cette manière dans sa contribution au bien-être. Bref, devenir une métropole de la forme. Alors aujourd'hui, quand on dit ça, évidemment, et par rapport au choix qu'a fait le gouvernement en matière sportive, vous imaginez bien qu'on va un petit peu à contresens en affirmant ça. Puisqu'aujourd'hui, ce contresens, non seulement ce sont les recommandations que nous font les chercheurs pour la pratique sportive en matière de santé, mais aussi quel est le signe donné par le gouvernement en baissant de 30 millions, comment dirais-je, le budget désigné au sport et en supprimant pratiquement 1 600 postes, de ce qu'on appelle des conseillers techniques sportifs, qui sont les rouages mêmes essentiels du sport de haut niveau, mais aussi de la pratique de sport loisirs et de sport santé. Aujourd'hui, vous dire qu'il s'agit également de favoriser les grands événements, qui sont à l'ADN même d'une métropole, les grands événements à penser comme autant de moments privilégiés de communion collective destinés à renforcer l'identité métropolitaine, mais également comme des marqueurs visibles de notre attractivité, tant à l'échelon national que transfrontalier. Enfin, penser l'avenir de notre métropole à travers les orientations et défis sous-tendus par le projet que nous délibérons aujourd'hui, c'est évidemment penser avec force et conviction la particularité d'un territoire riche d'histoire, véritable carrefour cosmopolite, terre de migrants venus de toute l'Europe et d'outre-Méditerranée, pour qui les valeurs d'accueil et d'hospitalité ont toujours été des constantes évidentes. Enfin, et ce sera mon dernier mot, je voudrais remercier évidemment l'ensemble des élus, des services, des citoyens, pour leur contribution dans un projet audacieux, ouvert, comme l'a dit aussi mon collègue Serge Bouly, et qui, je l'espère, avec l'apport de nouveaux territoires, est destiné encore à s'enrichir. Il nous reste un livre encore à écrire, évidemment, pour le bien-être de nos habitants et de l'intérêt du plus grand nombre.
Merci, Éric. Malika Dati.
Oui, Président, mes chers collègues, on l'a vu au travers du film de tout à l'heure, il y a un verbatim, c'est ensemble. Ensemble, c'est cette connexion, c'est ces liens, puisque si on veut faire projet métropolitain, avancer, faire chacun son pas dans une société, c'est aussi un projet philosophique de société, ben c'est les liens. On ne peut rien faire tout seul. Ces liens sont nourris d'ingrédients sur notre espace scientifique, universitaire, culturel, technologique, avec cette forte concentration, mais qui sont bien connectés et qui sont connectés au-delà d'ailleurs de la métropole d'une façon matérielle, physique ou immatérielle. Pardon. Le citoyen, quelle est sa place? Qui est-il? Qu'entend-on par citoyen? Nous avons une culture de la participation citoyenne qui s'exprime depuis longtemps dans les différentes instances et sous différentes formes. Elle doit positionner le citoyen dans un rôle à la fois d'acteur et de partie prenante pour qu'il devienne, après avoir compris l'essence de ses actions et de nos actions, d'ambassadeur en lien permanent avec les élus et les techniciens. La création de la Fondation numérique, Humanisme numérique, qui est à la fois une manière nouvelle, renouvelée, de croiser les liens de la connaissance, de l'acculturation, de l'apprentissage, pour accompagner la transformation qui est déjà en route de la cité, parce que ce qui facilite la vie pour un certain nombre d'entre nous ne doit pas être une barrière et une source d'exclusion pour d'autres. 90% des foyers en France sont équipés d'écrans, multiples écrans ou mono-écrans, et un quart de nos concitoyens sont loin et ne sont pas à l'aise avec le numérique. Ces espaces du numérique, ce sont aussi des liens à la fois immatériels, mais des connexions aussi matérielles. Et dans les connexions, on a les mobilités, l'accessibilité. Quel est cet espace? Quel est aujourd'hui l'espace pertinent? Est-il le bassin de vie? Est-il au-delà du bassin de vie? Parce que on voit que les mouvements de population, les flux, les trafics aujourd'hui de la population a changé, s'est transformé depuis une vingtaine d'années. Le bassin de vie ou le bassin de production, vous l'avez rappelé, Président, tout à l'heure, sur les bassins de production, notamment Neuf-Maisons, Pompey, Dombasle, c'est plus de 150 000 salariés qui représentent 5% de l'ensemble des salariés du Grand Est. La mobilité, l'accessibilité, comme vous le savez, c'est plus une question uniquement d'outils de déplacement, mais de courbes à la fois isométriques et surtout de courbes isochrones, c'est-à-dire le temps. Dans ce temps, il y a également ces espaces, l'espace aujourd'hui de la réorganisation en matière de réflexion et de plan d'action, et on le voit sur les gouvernances. On parlait de géopolitique. Aujourd'hui, la géoéconomie, la géoconfluence supplante la géopolitique. Et on le voit notamment dans les relations internationales, tous les investissements qui se font dans différents grands ports. Au Danemark, par exemple, le port de la Hanse. Alors on revient au 15e, 16e siècle sur la Hanse et la Flandre. Mais tous ces ports qui sont dynamisés aujourd'hui sur ces réseaux internationaux auront un impact forcément sur nos ports. Et on voit bien la nouvelle gouvernance pour les ports de Moselle, avec le potentiel sur les ports de proximité, le port de Frouard, le port aujourd'hui de Champignol. Donc le fluvial ne doit pas être aussi en déconnexion. Il doit faire partie de l'accessibilité et des mobilités. Le réseau diplomatique, le réseau européen du sillon lorrain donnera également une force, et cette force de la diplomatie permettra d'entretenir des relations privilégiées avec nos voisins et de nous donner une place aussi prépondérante en Europe et avec un vecteur d'internationalisation qui est d'actualité et encore plus d'actualité pour que l'on puisse aussi souder les fractures que l'on est en train de voir et de constater sur notre dimension, la dimension européenne. La coopération décentralisée, qui fait aussi œuvre de la culture de la métropole, doit être aussi développée, toujours avec une assise de l'euro, aujourd'hui cité humaine. Alors, tous ces liens, on pourrait en parler des heures et des heures, doivent consolider, tisser entre chacun d'entre nous, entre nos relations avec nos concitoyens, avec nos voisins, avec l'Europe, avec le monde, par différentes facettes et assises. Et tous ces liens doivent également nous tisser la place et donner la place à chacun pour limiter l'exclusion et que chacun puisse y trouver le sens, et on l'a vu aujourd'hui, le bien-être, puisque sans bien-être et sans santé, nous n'aurions aucun sens dans notre place aujourd'hui dans la société.
Merci Malika. Avant d'ouvrir le débat, il me reste à donner quelques instants au président du Conseil de développement durable pour nous donner son sentiment sur ce projet, puisque cela fait partie institutionnellement, donc il va être aussi bref qu'il me l'a promis.
Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, il est toujours important pour nous d'expliciter la méthodologie employée dans nos travaux. Concernant le projet métropolitain, que nous considérons comme le projet de société, il nous fallait être actifs dans tout le processus. Pour ce faire, les membres du Conseil, qui sont tous, je tiens à le rappeler, des bénévoles, ont contribué et se sont fortement mobilisés au travers de plusieurs séquences de travail, avec leur participation aux ateliers et séminaires organisés par la métropole et par une contribution de temps qui met en perspective l'ensemble des travaux menés depuis le début du mandat. La première en septembre 2017, qui pose la réflexion de comment faire métropole et co-construire l'identité métropolitaine. La deuxième en mai dernier, qui propose des pistes de réflexion pour répondre aux objectifs identifiés et contribue à faire évoluer le document comme nous avons été invités à le faire. Pour nous, ce projet doit réunir les conditions pour faire de la métropole un démonstrateur des transitions. Ce territoire doit devenir ce commun qui nous relie et où chaque citoyen peut adhérer, participer, s'engager et s'identifier. La démarche d'adhésion et de partage sera facilitée si le citoyen peut se situer dans le projet, peut comprendre ce que être métropole lui apporte concrètement, s'il saisit les influences de la métropole sur sa vie, son quotidien. Nous fonctionnons tous comme cela. Nous nous intéressons à ce qui nous parle, à ce qui nous touche. C'est pour cela que nous avons identifié, au-delà des 4 défis proposés par la métropole, un 5e défi, celui de la métropole du quotidien, qui, selon nous, faciliterait ainsi l'émergence d'une identité métropolitaine. Comment voulons-nous vivre en 2030 ? Quelles valeurs souhaitons-nous porter ? Et quelles modalités de pilotage faire émerger dans ce nouvel espace commun ? Comment élus, experts, acteurs socioprofessionnels et particulièrement les jeunes qui vivront pleinement cette métropole peuvent-ils collaborer à l'écriture d'un récit commun ? Alors pour le défi de la métropole des liens, c'est pour nous retrouver le citoyen au cœur du projet. Il y a un besoin impérieux de l'impliquer. Pour ce faire, il est indispensable de former les acteurs, développer une culture partagée de la concertation, donner aux citoyens l'accès à l'information la plus large possible, sensibiliser les chefs de projet, les élus, les techniciens, former des référents à la participation dans chaque service, changer les comportements. Mais aussi former les habitants pour qu'ils comprennent tous les enjeux, pour qu'ils puissent faire des propositions et donner un avis éclairé et pas simplement bougonner ou contester. C'est d'ailleurs l'une des pistes développées dans le livre blanc coécrit avec le Césaire et les conseils de développement du Grand Est. Dans le cadre des relations de la métropole avec ses voisins, avec les autres communautés de communes, il faut construire une alliance des territoires au niveau de l'aire métropolitaine, appuyée sur les singularités et les complémentarités. La théorie du ruissellement n'existe pas, celle des complémentarités et des coopérations, oui. Donc imaginez un plan réciprocité entre la métropole et les territoires à l'échelle de l'aire métropolitaine. Retisser les liens ville-campagne pour une métropole du bien-vivre. L'alimentation et son corollaire de santé-environnement peuvent être un support des préoccupations des citoyens et des élus pour fédérer des politiques diverses et une identité commune. Au sein du Grand Nancy, il faut penser des nouvelles mobilités, moins dépendantes de la voiture, développer un réseau intelligent, intermodal, au service du territoire et de ses habitants, créer des parcours urbains actifs avec les diagnostics en marchant avec les citoyens, faire du plan de déplacement piéton un pivot transverse alliant santé, nature, voirie, urbanisme, mais aussi penser le maillage de la métropole vers les autres territoires, construire une offre de transport cohérente aux différentes échelles. Ensuite, pour nous, le défi de la métropole du bien-être et de proximité, c'est un territoire au service de la qualité de vie et du quotidien de tous ses habitants. La prise en compte de la santé et du bien-être est transversale, et donc parfois même différenciée. Par exemple, il est important de penser, voire repenser, la place des femmes dans la conception des espaces urbains. Le bien-être aussi doit se décliner dans la forme et l'organisation urbaine, dans le lien entre déplacement et urbanisme, dans la place accordée aux natures en ville. Dans la ville des transitions, nous devons tenir compte des externalités positives dans nos façons de calculer les coûts des aménagements. Aussi, nous proposons de participer à l'élaboration partagée d'indicateurs de bien-être, comme la culture, le temps de la ville, mais aussi les pollutions visuelles, auditives, car pour une évaluation renouvelée des politiques publiques, il faut en effet co-construire le référentiel avec les citoyens. Enfin, pour le défi de la métropole de l'audace, peut se décliner au travers de l'innovation organisationnelle. L'expérimentation doit être au cœur des nouvelles pratiques, inventer de nouveaux usages tout en se préoccupant de la solidarité et de la mixité qui doivent être deux marqueurs de l'identité métropolitaine. Travailler les aspirations des habitants avec les services. L'audace peut se décliner au travers de l'anticipation et de l'adaptation au changement en étant conscient des mutations écologiques. Ainsi, le Conseil imaginait le concept de parc naturel urbain. Il s'agit de changer de référentiel et plutôt que de faire entrer la nature dans la ville, se dire que la ville s'aménage au sein de la nature. À titre d'exemple, et en se positionnant comme tel, les conséquences liées à l'apparition d'îlots de chaleur seraient gommées. Être audacieux, c'est aussi faire preuve d'inventivité en matière d'urbanisme. Développer et soutenir le concept de zone à usage différé imaginé par le Conseil de développement, avec par exemple la mise en gestion d'une friche urbaine par des habitants du quartier. Tous les habitants du quartier, y compris les plus fragiles et les moins visibles. Ainsi, faire confiance à l'ingénierie citoyenne pour laisser, dans les années à venir, des espaces modulables et convertir. Car en matière d'aménagement, tous les noms sont provisoires et le premier oui est définitif. Donc la cohérence renouvelée des acteurs publics est complètement en filigrane du point de vue que nous émettons sur les trois premiers défis. Monsieur le Président, en conclusion d'un projet de métropole qui développe les liens, qui se veut du bien-être et qui se montre audacieuse, nous formulons une ultime proposition qui serait la création d'une vice-présidence au futur souhaitable, mixant les préoccupations de prospective et de qualité démocratique. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président. Nous allons ouvrir le débat. J'ai vu que Monsieur le maire de Vendeuvre et Monsieur le maire de Maxéville.
Monsieur le Président, la Commission des Finances.
Monsieur le Président de la Commission des Finances.
Tanaki. Jean-Pierre Urfaut.
C'est bon, monsieur Dundy, vous êtes. On ne vous oublie jamais, vous savez. C'est... Bien, alors, monsieur le maire de Vendeuvre, vous avez la parole.
Monsieur le Président, c'est un sujet extrêmement important, puisqu'il s'agit bien de voir comment on fait Métropole Ensemble, d'évoquer ce projet qui est extrêmement important. On a un ensemble de villes et on a vu à travers les interventions, on a entendu, notamment la dernière intervention, celle du président du Conseil de développement durable, des mots-clés quand il s'agit de dire qu'on doit faire alliance, quand il s'agit de parler de coopération et non pas de ruissellement. Et on a vu aussi, on a entendu dans les interventions précédentes des intentions, des bonnes intentions. Je retiens quand Valérie Jurin expliquait, et c'était extrêmement important, toute cette dimension aussi philosophique et éthique. Quand on voit des populations qui ont mal, on ne peut pas être insensible. Je crois que c'est important. Je retiens également l'intervention d'Éric Pinsalfini qui parlait de sport, de santé et santé pour tous. Et je crois qu'on peut que adhérer donc à ces propos et puis aussi les paroles symboliques du président du groupe majoritaire Serge Bouly qui parle aussi de fraternité, de il faut sortir des chapelles, il faut être l'élu de tous et non pas d'un parti politique. Ça c'est les intentions. Moi, personnellement, je voterai évidemment pour ce rapport, mais en même temps, je crois qu'on peut être invité les uns et les autres à une certaine nuance, une certaine réserve, une certaine prudence sur l'attitude, parce qu'il y a un décalage. Et là-dessus, je crois qu'il faut trouver une méthode. Enfin, je demande, hein, je ne l'ai pas personnellement, mais je demande au président du Conseil de développement durable, puisqu'il le dit, une méthode pour observer et observer de manière durable comment le projet se met en place, parce qu'il y a un décalage important entre les intentions et la réalité. Je donne un exemple qui n'est pas pour polémiquer, mais qui est pour montrer la difficulté, et donc notamment dans les intentions qui sont exprimées et la réalité qu'on vit. Je prends l'exemple sur une commune ou dans un territoire. Éric Pincel-Fini parlait de terres de migration où on accueille les migrants et il faut le faire dignement avec un bon accueil. Je prends l'exemple que nous, on vit à Vendeuvre. Est-ce que c'est normal, en même temps, qu'on entende aujourd'hui le mot fraternité de la bouche du président du groupe majoritaire et que dans le blog officiel dans lequel il s'exprime, ils disent « c'est pas la compétence ni des communes ni de l'intercommunalité, mais la compétence de l'État ». Et là, il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus d'alliance, il n'y a plus de coopération. Et toutes ces valeurs républicaines qu'on a décrétées tout à l'heure, elles ne se retrouvent pas après dans la pratique. Et je crois qu'à un moment donné, c'est humiliant pour celles et ceux qui y croient et qui, dans la réalité, le vivent à l'inverse. Donc, moi, je dis qu'il faut, quand on parle des chemins vers la métropole, eh ben, pour aller vers la métropole, il y a encore beaucoup de chemin à faire.
Merci, monsieur le maire de Maxéville.
Merci, monsieur le président, mes chers collègues. Il s'agit donc, cet après-midi, du projet métropolitain. Je pense qu'ici, tout le monde a bien compris qu'il ne s'agissait pas d'un projet d'agglomération où, finalement, il s'agirait de définir les enveloppes dévolues aux mairies pour les 5 années à venir. Non, je crois qu'à travers ce document-là, et c'est ce que je retiens à travers ce document-là, au-delà des différents défis, c'est la question de l'identité. L'identité de la métropole et comment on donne une identité à la métropole que l'on a construite en 2016. Finalement, s'interroger sur qui nous sommes, nos forces, il y en a, mais il y a aussi des faiblesses, être conscient de ses forces et de ses faiblesses, et puis surtout où nous voulons aller à travers ce projet métropolitain, la place des habitants dans ce projet, l'avenir des territoires, et puis les liens à renforcer ou même à créer. Bref, il s'agit à mon sens avec ce projet métropolitain, non pas simplement de débattre autour d'un document, mais de fixer un cap, de savoir où on va, pas sur une échelle de temps d'un mandat, mais vraiment sur du très long terme, avoir un point à l'horizon. Alors je sais par moment la mer peut être agitée, on peut des fois un peu dévier, mais toujours avoir ce cap pour savoir exactement vers où on veut aller avec cette métropole. La méthode, ça a été rappelé, moi j'aimerais insister là-dessus, la méthode a été d'associer le plus grand nombre d'élus possibles, déjà, quelles que soient nos sensibilités politiques. On a partagé, on n'a pas toujours été d'accord, on s'est souvent opposé en comité de pilotage, je me souviens, monsieur le président, pied à pied, mais on a su s'écouter et trouver un point d'équilibre, mais aussi associer les habitants, les forces vives et citoyennes, le monde associatif, le monde culturel, social, éducatif, économique. Finalement, ce projet métropolitain est un projet, à mon sens, partagé. Et j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, que ce n'est plus le projet de la métropole, mais ça devient, et le film l'a montré, le projet des citoyens de la métropole. Ça devient un projet de citoyens de métropole qui est vivante, citoyenne, active et surtout participative. Certains ont souvent fait le reproche à ce document qu'il était trop haut perché. Moi, je ne trouve pas qu'il est trop haut perché, comme certains le disent. Je pense qu'on se doit à nos concitoyens d'avoir un document avec un niveau le plus élevé possible. C'est un acte politique majeur et c'est un acte philosophique. Le mot a déjà été employé. Je reviens sur la question de l'identité. Quand on parle de Bordeaux, de Lyon, de Lille, de Nantes, de Strasbourg, ils ont une identité. Une identité culturelle, une identité économique, une identité géographique. Force est de constater, quand on regarde vers la direction du Grand Est, on a souvent le regard qui a tendance à arriver jusqu'à Strasbourg et à passer au-dessus de la métropole du Grand Nancy. Donc il est important de redonner cette identité forte à la métropole du Grand Nancy et d'avoir ce regard sur cette métropole. On a eu, dans les années passées, l'identité de l'école de Nancy. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut aller rechercher cette identité, l'école de Nancy. L'identité de l'audace a été rappelée. On doit travailler sur des grands potentiels et ses grands potentiels, c'est le numérique et la transition énergétique. Ça a été mis dans le document, et à travers cela, on doit le décliner avec des forces académiques et économiques fortes sur notre territoire, les matériaux, l'énergie, la bioéconomie, et là-dessus. Il faut donner sur ce territoire cette identité culturelle autour de ces compétences-là sur la transition énergétique. Évidemment, l'entrepreneuriat, mais il ne suffit pas de le dire. C'est comment on met en place tous les outils politiques de la métropole, de la région, de l'État, mais également les outils des chambres de commerce et autres pour que ce territoire devienne et puisse avoir une identité où il est facile d'entreprendre dans ce territoire. On doit se donner d'un territoire de création, d'innovation et d'entrepreneuriat. L'esprit de l'école de Nancy. L'esprit de l'école de Nancy reviendra si on arrive à fixer ce cap et atteindre ce cap-là. L'autre identité, et je crois qu'il est aussi important que l'identité de l'audace, et d'ailleurs tous les objectifs sont importants, c'est le bien-être et le citoyen. Le citoyen doit redevenir un acteur de la vie politique. Aujourd'hui, nos concitoyens ne veulent plus être des spectateurs. Ils veulent participer et donc on doit mettre en place des laboratoires de participation citoyenne. Comment rendre le citoyen métropolitain de nouveau acteur des politiques publiques, les coopérations entre les territoires voisins, la coopération intercommunale, comment on peut travailler commune avec commune. Moi, je le sais, par exemple, avec l'Axour, on a des territoires communs, on travaille ensemble sur ces territoires communs. Et puis, le bien-être, c'est pas simplement un slogan. J'ai envie de dire que on doit avoir envie de venir vivre au Grand Nancy, non plus par obligation, mais par choix, comme on fait le choix d'aller vivre à Bordeaux, à Lille ou à Nantes. Et pour cela, il y a des grands axes à travailler. Éric Pinsalfini en a esquissé quelques-uns, évidemment la culture, les déplacements, la nature en ville, le sport, et surtout avoir un espace d'hospitalité et d'accueil. Enfin, la dernière identité qu'on doit construire, et qu'on puisse être reconnu nationalement là-dessus, c'est la question de la cohésion et la cohésion forte des territoires. Coopération intercommunale, bien sûr, le sillon lorrain, et la place de la métropole dans cet espace de la région Grand Est. Et ce document réaffirme la région Grand Est. Je le dis ici, si ce document n'avait pas réaffirmé la région Grand Est, je n'aurais pas voté ce document-là. Parce que la région Grand Est est le bon périmètre entre l'Île-de-France d'à côté et le transfrontalier de l'autre, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et la Suisse. Cet espace de la région Grand Est est le bon espace. Je sais qu'en ce moment, il y a quelques discussions, surtout au niveau alsacien, mais attention que la problématique des Alsaciens ne vienne pas de la propre problématique de toute la région Grand Est. Cet espace est bon et la métropole doit pouvoir peser dans cette région Grand Est, être un point d'équilibre de cette région Grand Est dans son développement économique et autres. Bref, j'en termine, Monsieur le Président. J'ai envie de dire que ce projet métropolitain, ou en tout cas ce cap que l'on se fixe, c'est un acte fondateur de la métropole. On a effectivement créé la métropole en 2016, mais on l'a fait naître, d'un point de vue administratif, politique aussi. Elle a grandi tranquillement, mais il lui manquait une pensée, un corpus idéologique, j'ai envie de dire, et ce projet métropolitain lui donne une pensée pour pouvoir s'affirmer dans cet espace régional, national et européen. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur le Président Jacquemin.
Merci, Monsieur le Président. Alors, on voit bien que le jeu de rôle est toujours bien huilé. On finit par un peu rendre fade ce débat et c'est un peu dommage. Alors, après la charrue, on traite des bœufs aujourd'hui. Et on le voit, ça mobilise peu les élus. Et c'est quand même très inquiétant, Monsieur le Président. Si l'opposition était partie ou si elle partait, il n'y aurait plus de quorum. Alors, c'est vrai que ce projet est riche de réflexions, d'apports nombreux. Ceux qui y ont participé, j'en étais, en attestent, mais de nombreuses ombres et questions demeurent. Moi, je veux quand même saluer l'ambition du projet qui signale même les enjeux mondiaux. Mais de contrat en convention, en pacte, en contribution, en schéma, on a l'impression quand même que nous sommes dans un shaker. Audacieux, dites-vous. L'audace, oui, quand elle est sociale, oui, quand elle traite de l'écologie, pas quand elle ronge le pacte social, page 33. Compenser le déficit d'attractivité par une obligation d'agir, oui, mais vous postulez sur un avenir qui n'est pas certain, surtout quand vous dites que l'attractivité de la France dans le monde rejaillira, ruissellera sur la métropole, page 20. Ruissellement tout de suite abandonné pour l'innovation systémique. Sachez, Monsieur le Président, que certains systèmes s'entrechoquent, se heurtent lors de leurs rencontres.
on trouve dans ce texte d'ailleurs des phrases amusantes, comme les matériaux du futur dans un monde fini, même pas défini. Et alors le must, un numérique apprivoisé, c'est la cerise sur le millefeuille, comme si l'on pouvait contenir, circonvenir, éduquer un numérique qui est en pleine croissance exponentielle, non contrôlée. Université populaire du numérique, dites-vous. Non, le numérique n'est pas populaire. Il est réservé aux classes aisées, intellectuellement évoluées, s'imaginant que l'énergie électrique fonctionnera pour l'éternité. Ces profiteurs excessifs du présent qui épuisent la Terre sans complexe. L'électrique est là, s'amplifiant, déjà 23% de recensés. On navigue avec délectation dans ce projet entre le passé, dont il faut s'inspirer, voire le reproduire, comme avec l'école de Nancy ou à la Renaissance, des thèmes qui vous sont chers, Monsieur le Président, et un futur radieux où l'entreprise devient actrice de notre vibration territoriale et l'opportunité saisie, exceptionnelle, devient les contours des objectifs à atteindre. Vous dites que l'audace sociale passe par l'altérité, écrivez-vous. C'est merveilleux, même incroyable. Mais quelles sont les réalités des actions proposées ? Écrivez, il en restera toujours quelque chose. Quant aux objectifs, c'est vrai qu'il y a un qualificatif qui entre en écho répétitif, étonnant. Slogan, on dit certains. Ce n'est pas une autre toilette, non, c'est le bien-être. Alors venant sans doute de l'espace bien-être du Grand Nancy, thermal. Répété plus de 10 fois, symptomatique de ces mots répétés qui souvent trahissent le contraire de la pensée de l'interlocuteur. Car l'addition de ce document a des façons préventives de contrôle auprès des jeunes, des étudiants, voire des seniors, est inquiétante et montre le peu de confiance qu'on fait à ce document dans le futur de cette métropole. Des travers sont signalés, et c'est bien, comme l'exigence de la participation citoyenne, important, incontournable, mais par quels moyens y parvenir ? Aboutir à cette fusion, à sa pratique démocratique ? Rien. Ce document eût été riche s'il avait indiqué les contributions apportées par les uns et par les autres nominativement. Ce n'est pas le cas. La participation citoyenne, même si elle est montrée, est oubliée un peu. Le fil d'Ariane est rompu. Retrouverons-nous la sortie du labyrinthe métropolitain ? Pour finir, car notre temps métropolitain est compté, 5 minutes, il n'y a pas assez de perspectives, d'ouverture vers l'extérieur de la métropole, surtout sur son hinterland. C'est pourtant là son futur, son évolution en devenir. Vous en êtes convaincu, je le sais, comme d'autres. Et je cite notre collègue Gouvion de Saint-Cyr qui disait de ce projet « Il ne faut pas de repli identitaire des intercos, des métropoles, à un moment où on doit s'ouvrir. Cela doit nous permettre de rebondir sur des pistes de réflexion qui pourraient devenir communes », dit le maire de Chaligny. Encore faut-il ouvrir, et on ne sent guère cette ouverture. Et on sent bien les risques encourus. La presse d'ailleurs en parle aujourd'hui par la bouche de Dominique Bussereau, président de l'ADF, qui met en garde contre la métropolisation forcée. Pas de métropole gloutonne. Attention. Voilà, Monsieur le Président, je m'abstiendrai. Je vous l'avais dit, j'ai l'impression sur ce chemin de Compostelle, métropolitain, de me trouver devant un œuf. Vous connaissez la problématique. Vous pratiquez comme Christophe Colomb. Pour le faire tenir, vous posez fortement pour en écraser le cul et le faire tenir debout à tout prix. Moi, je me demande ce que va donner l'œuf dont on ne connaît pas vraiment le contenu. Stérile, donnant un chapon, une poule ou un coq fier de lui. Merci.
Monsieur Donati.
Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, la métropole, a été lancée il y a quelques mois.
2 ans.
Pour moi, c'était encore hier. Pour beaucoup de Vendopériens, lorsqu'on leur dit, on leur demande c'est quoi la métropole, beaucoup considèrent que c'est un machin d'élus. Le fait d'avoir organisé ce débat, et je pense qu'il était absolument nécessaire, a permis de faire une sorte de clarification. Mais cette clarification est-elle ouverte jusque aux grands citoyens ou simplement limité à ce que notre société macronienne appelle les premiers de cordée? Je pense qu'il va falloir faire attention de ce côté-là, parce qu'évidemment, ça veut dire un certain nombre de textes dans lesquels tout le monde ne va pas se reconnaître. Le second point que je souhaiterais aborder, c'est que ce document ne parle pas ou peu de l'évolution de notre territoire. Longtemps, nous avons fait district ensemble, puis communauté urbaine ensemble. L'objectif, c'était en fait de développer le bloc communal de façon à bénéficier des faits de taille, de façon à harmoniser le fonctionnement interne de notre agglomération. Aujourd'hui, faire métropole ensemble, ça veut dire s'ouvrir sur l'extérieur. Mais est-ce bien la volonté de tous nos maires de s'ouvrir sur l'extérieur et non pas de continuer à travailler l'intégration interne? Je pense qu'il va falloir en discuter et jusqu'à quel point cette notion d'ouverture sur l'extérieur est-elle toujours compatible avec le désir de développer de façon harmonieuse le fonctionnement interne. Autre point qui est important, on ne pourra jamais oublier que nous sommes une petite métropole en tant que, je dirais, commune. Nous sommes une communauté urbaine de l'ordre de 260 000 habitants, avec une ville-centre d'environ 100 000 habitants, ce qui est petit face à une banlieue de 150 000 habitants qui peut-être se développera encore plus, en fait. Il va falloir bien réfléchir à cette évolution. Certains, aujourd'hui, dans l'enceinte, ont parlé de fusion de toutes les villes. D'autres souhaiteraient que Nancy fusionne avec d'autres villes de proximité pour que la ville-centre s'agrandisse et soit mieux équilibrée par rapport à la métropole. Mais n'est-ce pas une chance, au contraire, d'avoir une ville-centre de petite taille et de profiter de cette spécificité pour développer une métropole qui ne soit pas centripole, mais multipole? Et je pense que là, il y a un gros travail de réflexion à faire, aussi bien dans le cadre du PLU que dans le cadre de cette réflexion. Autre point qui me paraît essentiel et qui a été, je trouve, pas suffisamment abordé dans ce document, voire maltraité. Autour de Nancy, nous avons ce qu'on appelle le pôle métropolitain de Sud-Lorraine. J'ai entendu aujourd'hui, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, qu'il faut travailler avec les autres intercommunalités, voire même fusionner avec pour s'agrandir, voire peut-être même partager les dépenses. Est-ce bien la bonne méthode? Ne risquons-nous pas d'avoir le syndrome de Goliath, avec des pieds d'argile? Et ne serait-ce pas mieux plutôt de continuer à travailler sur ce qui était le SCOT et ce qui est aujourd'hui, donc justement, la multipole, en développant cette association de notre métropole avec le Sud-Lorraine? Parce que si notre société a permis la mondialisation et faire en sorte que nous nous nourrissons de nourriture venant de partout, notre énergie vient de l'autre bout du monde. Cette société est en train de s'effondrer avec la crise écologique que nous connaissons aujourd'hui, et la proximité va devenir la chose la plus importante. Or, la force, la chance de notre métropole, c'est justement le pôle métropolitain. Et il ne faut pas, comme vous l'écrivez, et il vaut mieux, comme vous l'écrivez, travailler avec les intercommunalités et le pôle métropolitain plutôt que peut-être de vouloir l'absorber. Dernier point qui me paraît important et sur lequel j'avais abordé au début, c'est la notion de solidarité. Il y a dans ce papier-là beaucoup de noms en ion, hein, innovation, il faut aller de l'avant, etc., etc. Mais aujourd'hui, notre problème, c'est au contraire le fait que nous sommes dans une société à deux niveaux. D'une part, des personnes qui s'en sortent très bien. Nous avons des territoires où le taux de chômage est de quelques pourcents. Et d'autre part, des territoires importants où le taux de chômage est de 40%. voire plus chez les jeunes, en fait. Or, ce n'est pas avec que des emplois innovants, nécessitant beaucoup de diplômes, etc., que l'on va donner du travail à toutes ces personnes. L'ANRU est formidable. L'insertion professionnelle est formidable. Mais cela ne suffit pas. Il faut également que notre métropole travaille pour faire en sorte que notre société à deux niveaux de développement s'arrête et s'améliore, en fait. Merci, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur Jean-Pierre Urpo.
Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, on ne rappellera jamais assez, plus qu'une politique sectorielle, l'habitat est un élément central du bien-être et du mieux-vivre des habitants. Aujourd'hui, sur la question de l'habitat, la métropole du Grand Nancy est confrontée à quatre grands paris pour les années à venir. Assurer une offre de logement suffisante et qualitative, garantir le développement d'un habitat répondant aux exigences de la ville durable, de l'écologie urbaine et des impératifs d'accessibilité, préparer les conditions de la ville intelligente de demain, promouvoir la cohésion et la mixité sociale. Sur ce dernier point, je voudrais rappeler que les différents programmes locaux de l'habitat font justement du parc de logement le cœur même d'une action ambitieuse en la matière, grâce à une vision d'ensemble inscrite sur le long terme. Cette démarche représente, comme vous pouvez l'imaginer, un important travail de concertation, et je remercie l'ensemble des partenaires pour leur participation active et leurs propositions sur l'habitat dans le cadre de l'élaboration de ce projet métropolitain au travers des groupes de travail de la Commission intercommunale du logement. Un projet métropolitain qui définit les priorités en matière de développement social, urbain, économique, environnemental pour les années à venir en matière d'habitat. Et ce, avec un focus particulier en direction des quartiers politiques de la ville et des publics en difficulté, dans l'objectif de favoriser un rééquilibrage territorial entre parc privé et parc social. Ce que je veux également mettre en évidence, c'est l'intérêt encore plus marqué pour la question des parcours résidentiels, des différentes catégories de ménages, en privilégiant la production de logements répondant aux capacités financières des ménages et en favorisant l'accession abordable à la propriété. L'accent est ainsi porté notamment sur les notions d'égalité entre territoires, la réduction des écarts de développement entre les différents îlots urbains qui composent notre métropole. En la matière, la poursuite du renouvellement urbain des principaux quartiers HLM et la réhabilitation des logements vétustes dans leur ensemble, tout comme nos efforts pour lutter contre l'habitat indigne, sont évidemment à poursuivre pour assurer ce que j'aime à définir comme la cohésion urbaine. Améliorer la vie quotidienne des habitants, favoriser l'égalité des chances, mieux intégrer des quartiers prioritaires dans la métropole, tels sont les objectifs portés par un projet métropolitain destiné à réduire les écarts de développement entre ces territoires et leur environnement. C'est tout l'enjeu du travail de longue haleine que nous avons devant nous en faveur du bien-être et du bien-vivre ensemble.
Ça y est ?
Oui,
il a fini. Bien.
Eh oui.
Mes chers collègues, y a-t-il encore d'autres intervenants ? Monsieur Ferron ? J'en profite, Monsieur Ferron, pour saluer le travail qui a été le vôtre comme président de groupe.
C'est très gentil.
Non, mais c'est pas un job facile. Hein,
À qui le dites-vous ?
Vous souhaitez. J'attends avec un intérêt certain et respecté et respectable la personne que vous désignerez dans le groupe, je ne sais plus trop comment il s'appelle, mais dans l'autre groupe, pour le prochain conseil métropolitain. Et je vous donne volontiers la parole.
Ça me permet une petite précision. Je n'ai pas démissionné de la présidence du groupe. J'ai démissionné du groupe, ce qui amènera ce groupe, effectivement, à élire un président ou une présidente. Et je reste en dehors du groupe, mais tout à fait. Je continue à être très solidaire de ce groupe. Je souhaitais, de façon très courte, réagir parce que
parce qu'à un moment donné, je me suis demandé si j'allais, et j'avais l'impression de ne pas être le seul, si j'allais pleurer, ou d'émotion, ou bien de rire. Tellement c'était beau. C'était le monde des bisounours. J'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu des éléments de langage, les nouveaux éléments de langage, ceux qui sont à la mode, qui avaient été distribués aux uns et aux autres pour qu'ils puissent faire leurs interventions. Et la prose est belle. Monsieur Jourdain aurait adoré. Mais je pense même que c'était un peu présenté un peu comme une rédaction de collégiens, c'est-à-dire avec un plan, les quatre thèmes. D'ailleurs, à l'arrivée, on en a eu cinq, des thèmes. Une rupture brutale d'une vidéo de 4 minutes, juste au moment où on allait parler du lien. C'est un peu dommage, mais on avait dit 4 minutes, donc c'est resté en 4 minutes. Et puis, si vous voulez, je dis tout ça avec un peu d'humour, mais c'est parce que je trouve vraiment tellement dommage que ce soit tellement beau, qu'on fasse référence à de telles valeurs et qu'il y ait un tel décalage avec la réalité du quotidien, de la méthode et des pratiques. Donc, je n'aurai qu'un mot en réponse, c'est chiche. C'est pour cela que je ne voterai pas contre ce projet métropolitain, parce que j'aimerais tellement que ça puisse arriver. Je ne ferai que m'opposer. M'abstenir. Pardon, c'est un lapsus. M'abstenir.
Bien, naturel revient quelquefois plus vite qu'on ne l'imagine. Mais c'est bien. Moi, j'aime bien ces controverses, parce que qui détient la vérité aujourd'hui sur l'évolution des sociétés complexes dans lesquelles nous sommes? Qui détient aujourd'hui le meilleur parcours pour élargir, pour approfondir, etc.? On est dans un monde d'exceptionnelle mutation, de rapidité de mutation. Qui aurait dit il y a quelques années qu'il n'y aurait plus une seule commune de France qui ne serait pas dans une intercommunalité? Aujourd'hui, c'est quelquefois une dure réalité, parce que de temps en temps, il a fallu que le préfet utilise son chausse-pied pour y arriver. Mais aujourd'hui, il y a une telle évolution. Moi, je travaille beaucoup avec tous les dirigeants de l'Association des communautés de France, avec France Urbaine, etc. Il y a une telle évolution et une telle rapidité dans les évolutions que, quelquefois, les élus des territoires, et on l'entend dans le débat politique national, se sentent un petit peu abandonnés, oubliés, etc. Et je leur dis, préparez pour les prochaines municipales, non pas une posture de défense, mais une posture de construction dans le cadre de votre intercommunalité. Préférez le projet au périmètre. C'est ça aujourd'hui. C'est la société, l'organisation de la société ne peut pas être étrangère à l'évolution, à l'adaptation, à la recherche, à la quête dans les différents domaines de la société dans laquelle nous vivons. Et puis le vrai débat, peut-être, et là je concède qu'on n'en a pas suffisamment parlé, c'est le combat pour une vision de l'Europe et de la société. Et ça, aujourd'hui, je peux vous dire que le monde de violence dans lequel d'aucuns nous emmènent ou aimeraient nous entraîner ou aimeraient qu'on suive leur exemple est aujourd'hui fort inquiétant. Et les valeurs européennes que nous avons défendues, que le sillon lorrain, quelque part, impacte et incarne, c'est nos rapports avec le Luxembourg, avec la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, toute cette vision, je dirais aujourd'hui, des cultures et du monde européen, nous avons une vigilance à apporter. Nous avons une vigilance à apporter. Et quand on parle de rapprochement, de garantie franco-allemande qu'on peut s'apporter mutuellement, tout ça sont des choses qui, aujourd'hui, sont au cœur du débat et des batailles. Alors, merci de vos interventions, merci de vos critiques, parce que je vous avais bien compris que le débat n'est pas terminé. Nous sommes là sur une sorte de synthèse et que nous allons sur 4 ou 5 sujets approfondir. Et je pense que pour le mois d'octobre, on vous demandera de valider ces 4 ou 5 thématiques sur lesquelles nous allons largement approfondir et déboucher sur des propositions. Voilà, je vais donc mettre au vote. Y a-t-il... Ah là là, ces petites bêtes-là nous emmènent partout. Y a-t-il des oppositions ? Les abstentions ? Je vous remercie. Je remercie aussi profondément, même si c'est imparfait. L'exercice était très difficile. Il reste difficile. Il reste difficile et il ne fait que commencer. Le seul avantage de cette situation, c'est que nous avons un point d'appui, une sorte de socle à partir duquel nous allons pouvoir penser, imaginer. Là aussi, des solutions, à partir de ces valeurs, des solutions concrètes pour l'avenir. Et c'est sur ces solutions concrètes aussi que nous aurons à débattre. Et si j'ai engagé personnellement cette approche et cette méthode avec tous les avantages, mais aussi les inconvénients, Monsieur le Président, qu'elle peut prétendre, parce qu'on ne règle pas tout, c'est peut-être par excès d'humanisme, d'aucuns me diront, ou d'interrogation, de capacité d'interrogation, de critique de la société dans laquelle on est, de quête aussi de recherche pour préparer l'avenir, qui peut aujourd'hui le prédire, l'organiser, parce que les choix dits société aujourd'hui, ils se font dans une espèce de magma et de difficulté. Sans compter un certain nombre de gens qui confondent pétitions et autre chose avec la réalité de demain. Hein. On est donc bien dans ce monde et je pense que nous allons pouvoir continuer ensemble. Il y a de belles choses à faire pour cette grande agglomération. Et que l'on se passionne pour M. Lanthéry, qui est le promoteur de Nancy Thermale en 1913, hein, Rome, et que d'aucuns veuillent réhabiliter les monuments historiques, qu'ils soient d'ici ou de là, ou une culture ancienne qui appartient à notre vision historique et prospective. Aujourd'hui, c'est l'alliance non seulement des territoires, mais l'alliance des talents et l'alliance de nos capacités que beaucoup nous envient. Beaucoup envient ce que nous sommes et quelquefois ont peur de ce que nous pourrions devenir. Donc c'est une situation qui est à la fois de responsabilité, c'est une situation exaltante. Alors, le point suivant à l'ordre du jour, c'est le vœu que je vous suggère de rapporter. Laurent, tu veux dire un mot ? Non, tu veux pas ? Tu as trop donné. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Ah, il y a une projection.
Non, projection, il y a une présentation.
Il y a une présentation. À l'appui de mon intervention. Je ne sais pas à quoi je sers, alors. Oui, je le dis. Je le dis pas trop fort, mais je le dis. Bien. Vous avez ce document. Je voudrais d'abord saluer le travail qui a été fait avec le maire de Nancy, avec le président de la région, avec tous nos amis du Sillon Lorrain. Et je vous disais tout à l'heure que nous aurons rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur et le Sillon Lorrain. Ça fait partie, je pense, Laurent, aussi des choses qu'on laissera au ministère de l'Intérieur. On n'est pas dans une démonstration de pertinence, on n'est pas dans une démonstration, je dirais, de recherche de cohérence. Elle est tellement évidente. Est-ce que vous avez les eurocorridors à projeter ? Non, ça, c'est un peu compliqué. Ça aussi, ça... Les eurocorridors. On m'a montré une image. Et la seule chose intéressante, vous ne l'avez pas mise. Vous les avez ou pas, les eurocorridors ? Où ? Oui, non, mais c'est pas ce qu'il y a de plus visible.
La rose, il y a jaune.
À l'écran, c'est
pas. À l'écran.
La rose, il y a jaune.
Bon, en tout cas, je peux vous dire que j'ai évoqué cette situation avec le maire de Dijon, qui nous est reconnaissant d'avoir fait ce que nous avons fait, qui est sur le même combat que nous. L'Eurocorridor, mer du Nord, Méditerranée, il doit être à trois facteurs de la route, du fer et de l'eau. D'ailleurs, en parlant d'eau, je voudrais signaler le bel effort qui a été fait à travers la création d'une société, un syndicat qui regroupe l'ensemble des ports et des gestionnaires de ports sur la Moselle jusqu'à y compris à Neuve-Maison. Et là, je pense qu'on a donné du sens et de la lisibilité au transport fluvial. Il nous reste simplement un petit bout à faire, c'est la jonction avec la Saône vers le sud, mais ça, je ne sais pas, d'ici 15, 20, 30, 40 ans peut-être, mais il faut être prudent et patient. Voilà, en tout cas, on souhaite aujourd'hui dire, et moi j'aurais peut-être un message plus spécifique sur la SNCF. Oui, c'est Guillaume Pépi, tiens. Hein? Pardon?
C'est d'accord avec lui.
Je salue aussi tout le travail qui est fait par la région Grand Est. Et non seulement son président, mais par le vice-président en charge des transports, qui est notre collègue et ami, le maire de Saint-Dié. Parce que tout le problème des petites lignes n'est pas réglé. S'il a été soigneusement laissé sous le tapis au moment de la réforme, et le dialogue va être chaud et brûlant avec la SNCF, avec le ministère des Transports, avec l'État et avec les régions. Donc il y a aujourd'hui une situation de pouvoir qui est différente de ce qu'elle était jadis. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs aux messagères et aux messagers de Guillaume Pépi quand ils sont venus me voir et voir Laurent. Je leur ai dit, vous êtes dans un autre monde aujourd'hui, vous n'en rendez pas compte. D'abord, quand on vit au crochet de l'État comme vous le faites, alors on peut dire que l'État a quelquefois initié des investissements, mais vous n'êtes pas jugé pour avoir une gestion exemplaire. Deuxièmement, à travers l'engagement onéreux pour les régions, quelque part, vous allez vivre au crochet des territoires. Donc, tout ceci devrait modifier les rapports d'organisation des pouvoirs entre l'Europe, entre l'État, la SNCF et les régions. Et vous ne pouvez plus être tout seul et décider tout seul. Je crois que nous avons un vrai problème, je dirais, de gouvernance entre les territoires, la SNCF, et l'État et l'Europe doivent nous soutenir. Donc je vous invite à joindre aux efforts qui ont été faits, notre effort et la symbolique de la vision de notre Assemblée, et je vous invite à voter ce vœu. Tu veux dire quelque chose, François ?
Moi aussi. Oui, je pense que c'est plus qu'un vœu. Et donc, je pense que le sujet du jour appelle à quelques mots. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir être présent au conseil municipal de Nancy, mais la commune de Villiers y était représentée. Et la métropole est le bon endroit pour souligner un certain nombre de points fondamentaux qu'on aborde ici. Le sujet du jour, c'est pas seulement, c'est bien au-delà que des travaux, fussent-ils importants, dans une gare du Sud, qui ponctuellement nous fait apparaître des difficultés sur nos liaisons Nord-Sud. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est comment, et tout ça vient de très loin, et d'un long, long, long abandon, qui est d'autant plus surprenant de la part peut-être de l'entreprise nationale, peut-être de l'État, peut-être de je ne sais pas qui, qu'on nous prêche et on va continuer de nous prêcher dans les années qui viennent l'intérêt d'une gare située à Vendières. On nous prêche l'intérêt de cette gare, mais on est parfaitement incapable d'en garantir la relation satisfaisante avec l'ensemble des agglomérations qui se situent autour. Metz, Nancy, le sud, le nord de Metz, cette ligne, elle serait fondamentale et elle est première si on veut un jour avoir une gare interconnectée. Donc c'est beaucoup plus que des travaux à Lyon, la question. C'est vraiment comment on circule. C'est beaucoup plus que des travaux à Lyon quand on sait que le nombre de frontaliers luxembourgeois va continuer d'exploser et continuer de toucher, y compris toute la Lorraine sud. Donc cette ligne, elle est absolument stratégique et elle devrait être la toute première priorité dans toute la zone, disons, du Grand Est, bien au-delà de la région, je dirais, dans tout le secteur Grand Est pour la SNCF. Donc quelque part, cet événement, il nous sert à réveiller tout ça. Deuxièmement, le président a souligné le travail de la région, formidable, c'est très bien, mais ça a été beaucoup plus qu'un travail de la région. C'est une union politique profonde qui n'était pas acquise autour de ce dossier. Pourquoi elle n'était pas acquise ? Elle n'est pas acquise parce que, si on regarde bien, dans les schémas qui étaient initialement proposés, il y a des gens autour qui peuvent trouver leur compte en se disant « on va nous dévier du trafic, et plus on nous dévie du trafic, plus on sera gagnant pour des projets de lignes ultérieures ». Cette stratégie-là, elle aurait pu fonctionner. Elle n'a pas fonctionné. On a trouvé à la région une union politique complète, champardonnaise, alsacienne, lorraine. Et enfin, pour terminer, elle démontre une dernière chose, c'est que on va continuer d'avoir une région peut-être atypique de ce point de vue-là, puisque l'ensemble de nos grands flux de transport sont des flux qui sont situés nord-sud, alors qu'on a une région qui est complètement orientée de l'est à l'ouest par une décision administrative que nous connaissons et qui nous a mariés entre trois territoires où on voit bien que humainement, hein, le flux nord-sud, il n'est pas nouveau, c'est le flux hanséatique, hein, pour nous, il a quelques dizaines de... quelques siècles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, tout ça va continuer, et va continuer durablement. Eh bien, tant mieux, moi je dis, saisissons cette occasion pour, d'une part, montrer qu'on ne recule pas sur ce dossier, mais qu'au contraire, il faut une avancée rapide, à la fois sur la ligne existante, et aussi, on le sait très bien, sur les aménagements à venir et la façon de se raccorder vers le sud, très accessoirement, et un peu plus qu'accessoirement, c'est aussi ça qui permettra de poursuivre l'implantation de notre métropole comme une situation, dans une situation géographique extrêmement privilégiée au milieu de ce très grand espace du Grand Est.
Merci François. Laurent.
Oui, merci Monsieur le Président. Peut-être très rapidement rappeler les faits, parce que quand même, ils sont impressionnants en République. C'est des rendez-vous oraux hein, auxquels on a eu droit pour l'essentiel. Maire et président d'intercommunalité de Metz et de Nancy, pour être informé de la volonté de la SNCF de dégrader la liaison ferroviaire vers le sud. Alors, sous prétexte évidemment de travaux, puisque l'objectif pour eux, c'est la rénovation de la gare de Lyon-Part-Dieu. Pendant la durée des travaux, la réduction des faisceaux TGV qui passent par Lyon-Part-Dieu. Et l'idée de dire qu'après, bien sûr, on verra bien. Sauf que les travaux durent 5 ans et que la France est un pays qui aime que le provisoire devienne définitif. Deuxième fait, le fait aussi que la région, comme l'a très bien dit François, donc je n'y reviendrai pas, a été rapide, réactive, solidaire, et qu'on a vu tous les territoires s'unir, parce qu'on voit bien derrière le détricotage de la liaison vers le sud et la Méditerranée, on voit bien qu'il y a aussi derrière la remise en cause globalement des dessertes TGV, où les rames TGV roulent en dehors des lignes à grande vitesse. On revient au rapport Duron, on revient à des rapports d'inspecteurs des mines, des ponts, des gens très diplômés qui ont fait des études remarquables, et qui toutes ces lignes de rapport disent la même chose. Nous devons à tout prix, pour faire des économies évidemment, faire rouler les TGV sur les LGV et donc rabattre sur la LGV. Je reviens au Cas-Lorrain, une douzaine de villes directement desservies. Imaginez ce qu'il adviendrait des dessertes en Meuse, dans les villes moyennes de Meurthe-et-Moselle ou de Moselle, dans les Vosges, si cette politique était mise en œuvre. Donc cette mobilisation, elle est bienvenue et je pense qu'elle est surtout porteuse pour l'avenir. Les enseignements à tirer, moi j'en tire deux. Le premier, c'est que la mobilisation paye, puisque la SNCF a déjà révisé son projet. Le point de départ, c'était la suppression sèche des deux liaisons de Metz-Nancy par Dijon et Lyon vers Montpellier, Marseille et Nice, et le remplacement, pour ce qui concerne Nancy, par une seule liaison à grande vitesse, partant de Nancy, empruntant l'Île-de-France, l'anneau d'interconnexion Marne-la-Vallée, revenant à Lyon. la ligne entre Nancy et Lyon est tellement dégradée et mal entretenue qu'en faisant deux fois plus de kilomètres, on met quand même 45 minutes de moins. C'est dire à la fois la merveille du TGV, mais aussi la dégradation de la ligne conventionnelle. Ils ont ajouté à cela, à cet aller-retour, deux trains Nancy-Dijon, pris en charge par la SNCF et non pas par les régions, aller-retour bien sûr par jour, et puis un aller-retour pour Marseille et Nice depuis Nancy, mais passant par Strasbourg, donc dont la durée permet de lire beaucoup de livres ou de se reposer abondamment. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est de voir la SNCF faire cet effort, passer d'un aller-retour par jour à quatre possibilités alternatives, mais avec à chaque fois un trait commun aux quatre propositions alternatives, c'est que surtout, on coupe la liaison directe entre Metz-Nancy et Lyon. Voilà. Ça passe n'importe où, sauf par là. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment une arrière-pensée, je pense qu'il y a vraiment une politique masquée et qu'il faut qu'on se batte jusqu'au bout pour obtenir le plus rapidement les rétablissements des liaisons directes empruntant cette ligne 15, puisqu'on sait son numéro, Metz-Nancy-Dijon-Lyon. Dernière chose que je voulais dire, c'est que il y a pour nous quand même une stratégie d'action qui est claire. Le gouvernement a clairement annoncé un moratoire sur les lignes à grande vitesse et il a dit qu'il voulait concentrer les crédits d'investissement à venir sur la modernisation, la rénovation du réseau actuel, des lignes conventionnelles. Et je crois que là, par contre, par rapport à notre difficulté, c'est évidemment une opportunité à saisir. La ligne 15 est une ligne conventionnelle. Donc sa rénovation doit pouvoir rentrer dans les priorités. Faites le calcul rapidement. Je rappelle qu'il y a des tronçons où le train roule à 90 km/h sur cette ligne. On sait tous que des TGV peuvent rouler sur des lignes conventionnelles en bon état, avec des bonnes courbes, à 160. Il y a même des endroits où ça roule à 220 km/h. Donc imaginez avec une ligne performante modernisée le temps gagné. Donc je pense que ça doit être le sens de notre engagement. Il ne faut rien lâcher. Il faut se battre. Il faut rester bien sûr unis sur cette question. Ma conclusion sera simplement cette carte. C'est qu'on peut parler beaucoup du développement de la métropole. Un des éléments clés du développement de la métropole, c'est d'être au croisement de deux eurocorridors. Un est-ouest, de l'Europe centrale vers l'océan Atlantique, un nord-sud, de la mer du Nord vers la Méditerranée. Le jour où on perd ce croisement de corridors, évidemment que notre compétitivité et notre attractivité seront affaiblies. Donc ça me paraît essentiel de se battre en ce sens. Parce que regardez ce qui se passe sur les difficultés avec la 31 bis, l'ajournement des projets fluviaux et notamment de Moselle-Saône, si on y ajoute un cul-de-sac ferroviaire, ça pourrait être évidemment fatal à la vocation européenne de notre métropole.
Bien, monsieur le cheminot, jeune retraité.
Oui, monsieur le président. Moi, je vais intervenir rapidement parce qu'effectivement, on votera sur ce vœu, monsieur le président, mais il est quand même très à minima. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. Alors, je suis un peu rassuré par ce que certains disent, et j'ai bien entendu Laurent, monsieur Hénard là-dessus. C'est vrai, il y a cette ligne 15 qui existe, ça fait très, très, très longtemps, et on peut effectivement en modifier la nature puisque elle a été votée par vous-même, hein, du moins par les élus de la droite et de la gauche d'ailleurs, au Conseil régional, comme étant une ligne fret. Alors, vos amis ont fait en sorte de tuer le fret SNCF, donc effectivement, il y a de l'espace pour circuler sur cette ligne-là, avant que définitivement l'Europe s'en empare pour en vendre un certain nombre de sillons sur lesquels nous contrôlerons plus rien du tout. Alors, c'est vrai, je m'inscris en faux sur ce qui a été dit tout à l'heure, pas sur la totalité de son intervention, M. Werner, mais sur la gare de Vandières, parce que le fait d'avoir fait la gare de Vandières, si nous l'avions fait, M. le Président, vous avez jamais voulu la faire de peur de perdre des relations TGV, baf, elles partent. Mais par contre, si nous l'avions fait, ça aurait fait la théorie macroniste que vous défendez du ruissellement, parce qu'en passant par Vendières, on arrosait effectivement Nancy, et cet axe nord-sud qu'il aurait fallu défendre depuis très longtemps. Sauf qu'il va falloir maintenant aller jusqu'au bout. C'est pas uniquement la relation privilégiée Nancy-Marseille qui nous intéresse tous ici dans cette salle et qui devrait passer effectivement plutôt par Culmont-Chalindré-Dijon plutôt que d'aller nous balader du côté de Strasbourg, voire sur la ligne de Paris. C'est l'axe nord-sud, oui. Cet axe nord-sud, il est important et à défendre maintenant, parce que si nous le défendons pas maintenant, la zone ARA, c'est-à-dire Amsterdam, Rotterdam, Anvers, ça passera.
Même pas par Strasbourg, ça passera par la Ruhr, l'Autriche et l'Italie du Nord, et ça rejoindra le bassin méditerranéen sans inonder du tout la Lorraine. Et ça, c'est un vrai combat qu'il nous faut mener. Moi, je le prétends le mener depuis 10 ans, depuis que l'axe Est-Ouest est terminé. Mais depuis, on s'est endormi sur nos lauriers.
D'autres remarques ? Pierre.
Oui, simplement pour trois petites choses, préciser quand même à notre collègue à l'instant que dans ce qui avait été décidé, c'était le fret la nuit, les passagers le jour sur la ligne 15. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ce que je voudrais dire, c'est qu'au niveau de l'Association des maires, nous avons conseillé à toutes les communes de délibérer sur ce vœu de façon à faire masse auprès de la SNCF. Troisième point, je voudrais revenir, Président, sur la ligne 14. La ligne 14, elle fait Pont-Saint-Vincent maintenant, puisqu'elle ne fait plus Vittel. Elle fait Pont-Saint-Vincent-Nancy. Or, pas plus tard que le mardi 11 septembre, le train de 7h25 et le train de 7h55 en destination de Nancy a été supprimé, au motif que c'est une ligne d'appoint, on prend les chauffeurs ou on prend les... Je ne sais pas si on prend les contrôleurs, mais on prend les chauffeurs pour les mettre sur d'autres lignes plus importantes, paraît-il. Ce qu'il fait, qu'il nous reste, c'est vrai à Oudemont, c'est vrai à Ludres, une vingtaine d'enfants qui vont en scolarité à Nancy, que ce soit des enfants ou des étudiants d'ailleurs, et bien entendu des gens qui partent, enfin des personnes qui partent travailler. Pas de bus de remplacement, pas d'information, et même les services de la métropole n'ont pas obligatoirement des bus calés en remplacement des trains. Donc on laisse des personnes sur ces gares, alors que la métropole a versé de l'argent sur les 20 millions pour réaliser cette réfection complète de la ligne. Moi, j'appelle au scandale et je dis simplement à nos représentants de la région de taper sur la table pour que ça ne se reproduise plus.
Il y avait encore Monsieur Breuil.
Oui, Monsieur le Président. Effectivement, le vœu là a le mérite d'exister. Je ne peux qu'y adhérer. On a bien évolué par rapport à la situation il y a 2 mois où on nous annonçait une situation catastrophique puisqu'on était pratiquement à zéro desserte et on se dirigeait vers la fermeture de cette fameuse liste 15. Donc ce vœu-là existe, mais il reste quand même fragile et je pense qu'il faudra qu'on le regarde régulièrement, peut-être tous les 6 mois, tous les ans, parce qu'il y a des points fragiles. Alors déjà, situation des travaux de la gare de Lyon, moi, mon avis personnel, qui ne reste que personnel, il n'y aurait pas eu de travaux à la gare de Lyon ou à cette heure-ci, on parlerait de la même situation. On serait à peu près dans la même situation. Par contre, on nous dit que les dessertes seront assurées au même tarif, combien de temps ? Et c'est là que je dis que c'est fragile et qu'il faudra peut-être regarder dans un an si c'est toujours prêt. On sauve la ligne 15 avec des dessertes, très bien. Ce qu'il faudra obtenir également, c'est des travaux sur cette ligne-là. Tout le temps qu'on n'aura pas obtenu un minimum de travaux, on sera fragile et on ne sera pas à l'abri de voir ces dessertes TER disparaître. Des TER, très bien, ils sont pris en charge par la SNCF, mais pour combien de temps également ? Sachant que très vite, l'ETR reviendra dans son rôle à la charge de la région et que la difficulté, nous sommes là sur 2 régions. Donc effectivement, ce vœu, très bien, on l'a bien avancé. Soyons vigilants, surveillons-le régulièrement pour voir tous ces points fragiles qui n'évoluent pas. Un point qui est quand même important également, on obtient avec cette desserte de lignes TGV de province à province, ce qui a toujours été refusé dans les plans de grande vitesse, puisque les plans en grande vitesse étaient faits de capitale, donc Nancy, vers la province, vers la capitale, et toutes les gares d'interconnexion faisaient province-province. Là, on obtient quand même des relations de province à province, ce qui peut être une avancée pour la suite, en attendant d'éventuelles gares d'interconnexion. Pour la ligne 14, effectivement, là, il faut être très vigilant, puisqu'il s'agit bien de lignes qui sont considérées comme des lignes d'ajustement, effectivement, en cas de problème de matériel ou de mécanicien, c'est ces lignes-là qui sont régulièrement visées.
Merci. D'autres interventions ? Je mets donc aux voix. Qui est contre ? Tu voulais la parole, Patrick, non ? Excuse-moi, il faut crier plus fort.
Bon, ben, la prochaine fois, je crie.
Voilà.
Non, je voudrais simplement savoir pourquoi la boussole a perdu 2 points cardinaux, c'est-à-dire nord-sud, puisque... On ne raisonne que, bon, je parle de la SNCF, là, d'une façon générale, ne raisonne qu'en est ou ouest. Effectivement, je rejoins un peu François Vernière quand il dit que c'est pas la ligne la plus fréquentée en termes de mobilité, en tous les cas, SNCF. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais savoir pourquoi l'Europe n'est pas plus impliquée dans la décision dans le processus que nous avons sous les yeux, c'est-à-dire de substitution des lignes et son implication sur ces lignes, parce qu'on est vraiment à un carrefour européen complet. Hein, l'Eurocorridor, c'est bien, mais je voudrais bien que les structures européennes s'impliquent plus dans notre décision et dans notre vœu.
Merci. Laurent, un petit mot.
Simplement pour dire que moi j'ai eu la chance, grâce à une réunion européenne, de croiser la commissaire européenne au transport, qui a délivré deux messages et qui a rappelé les règles du jeu, si je puis dire. Premier message, c'est que cet Eurocorridor numéro 7, là, mer du Nord, Méditerranée, dans les projets de l'Union européenne, il était maintenu. Ce qu'on pourrait se dire, mais est-ce que ça n'anticipe pas une arrière-pensée européenne ? Pour eux, c'est un eurocorridor stratégique qu'ils veulent maintenir. Deuxième chose, c'est qu'elle était, bien sûr, disposée à recevoir des élus qui étaient mobilisés sur des questions d'infrastructure. Ce qui me paraît utile, c'est peut-être d'attendre le résultat des élections au Luxembourg. Parce que je rappelle que dans l'eurocorridor, il y a le Luxembourg. Et que donc, une fois passées les élections, une fois l'étape de la composition du gouvernement franchie, le Luxembourg peut être un allié précieux. Autant ils sont en retrait sur les investissements autoroutiers, autant ils ont programmé des investissements importants sur le plan ferroviaire. Enfin, le cadre européen est un cadre qui flèche les crédits européens. Voilà. Donc, mais ce n'est pas un cadre qui permet à l'Europe de décider à la place des États ou des sociétés dédiées, comme la société de réseau qu'on a organisée en France. Donc ça veut dire que derrière, il y a un travail à faire avec le gouvernement sur la modernisation de la ligne 15, quoi. Vraiment un état des lieux, une programmation, et ça, c'est devant nous, et comme l'a très bien dit Michel Breuil, on l'aura que parce qu'on parlera régulièrement du sujet, qu'on demandera des comptes, qu'on fera des bilans d'étape.
Merci. Il n'y a plus d'intervenants. Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. Et on va réfléchir un peu au contact. Je pense que tu as raison, Laurent, d'insister sur l'Europe. Et je pense aussi qu'on n'aura pas toujours les mêmes à la direction de la SNCF. Il faut parier aussi. Ce qu'il nous a dit qu'il partait en 2020. Hein, il s'est exprimé, le président. Bien, alors, nous ferons, monsieur le président du Conseil de développement, tout à l'heure, quand Valérie Debord sera arrivée, pour qu'on ait le développement durable, donc on fera votre deuxième intervention. L'étape suivante, ce sont deux dossiers qui concernent le développement du site de la plaine Flageole, mais aussi l'aéropôle Grand Nancy-Tomblaine. Donc on aborde une zone de l'est de l'agglomération importante sur le plan stratégique, sur le plan routier aussi pour l'agglomération, un aéropôle qui fonctionne plutôt bien, une zone d'activité, un territoire à enjeu qui concerne essentiellement la porte verte. Oui, vous pouvez mettre. À tes souhaits, Laurent. Voilà. Donc on est... Alors arrêtez de... C'est fatigant, vous savez, quand ça change. Voilà. Donc chacun reconnaît ici l'aérodrome et reconnaît vers le stade cette zone dans laquelle on voit, monsieur le maire de Tomblaine va nous en dire un mot, on voit un certain nombre de choses qui entrent dans le domaine du possible. C'est un territoire que je connais bien, sur lequel j'ai souvent réfléchi et travaillé, où on s'est interrogé, notamment avec Charles Chaunet, quand s'est posé le problème de garder l'aérodrome, hein, et on a bien fait de le faire, et je dirais le prolongement de la piste, la bonne gestion de la Chambre de commerce et d'industrie, nous apporte aujourd'hui un niveau de service très intéressant. Par contre, nous avons tout un espace dans lequel nous sommes, sur le plan foncier, souvent propriétaires ou de
terrains qui peuvent se libérer un jour. Je veux parler de la caserne des sapeurs-pompiers qui est située sur Tomblaine, où il nous faut réfléchir ensemble. Je suis souvent allé sur les lieux. C'est une zone de la métropole qui a souvent été en dehors d'une réflexion partagée avec la commune support, sur laquelle on est en mesure aujourd'hui d'avancer, d'identifier un projet. Et c'est la première fois, on y travaille beaucoup avec Éric Pinsalfini, c'est la première fois qu'on vient en séance publique sur cette ville de Tomblaine et sur cette partie du territoire de Tomblaine. Je vais donc demander que le maire de Tomblaine nous fasse une présentation, une sorte de rapport sur l'état de cette situation foncière, et puis à Éric Pinsalfini, s'il veut bien, de compléter la délibération. Monsieur le maire.
Merci, Monsieur le Président. J'apprécie que vous ayez été jusqu'à dire que c'était une sorte de rapport, parce que j'ai demandé avec insistance de pouvoir être co-rapporteur avec vous-même et avec Éric Pinsalfini de ce dossier, parce que je pense qu'il serait juste que je puisse le porter politiquement avec vous, pour un certain nombre de raisons que je vais développer ici. Et vous avez eu du mal à accepter cette idée, et jusqu'à il y a quelques secondes, vous me permettiez juste d'intervenir, et je n'étais pas co-rapporteur. Mais là, c'est une sorte de rapport. Alors, je suis une sorte de co-rapporteur. Je vous remercie. On va pouvoir travailler dans le bon sens. J'en profite pour dire, je l'avais fait remarquer, puis ça n'a pas été corrigé, il y a une toute petite erreur, d'où l'importance de travailler avec les gens concernés par le territoire. Ça n'est pas le karting au Berlin. C'est une piste qui était une piste d'essai de voitures de ville qui avait été exploitée par le garage à proximité et qui n'a jamais été une piste de karting, qui est utilisée parfois en été par le karting au Berlin, mais le karting au Berlin est situé à Nancy. Alors donc... Je pense que donc ce projet que donc je vous ai proposé depuis plusieurs années, nous avons travaillé ensemble, vous l'avez dit, avec Éric Pinsalfini et avec vous-même. Et ce projet, il est d'intérêt métropolitain, à bien des titres. Il se situe principalement sur le territoire de la ville de Tomblaine, sur la plaine Flageole, pour une surface de 42,5 hectares. C'est donc également un enjeu énorme pour la ville dont je suis le maire. Le plan local d'urbanisme de la ville de Tomblaine, voté en son temps à l'unanimité par le conseil municipal de Tomblaine, puis à l'unanimité le 27 novembre 2007 par le conseil de communauté urbaine, prévoyait sur la plaine Flageole de relier la ville à la ville. En effet, cet énorme no man's land, en partie en friche permanente, sépare encore aujourd'hui les deux quartiers prioritaires dans la politique de la ville, que sont l'ex-quartier Jartum à Tomblaine et Mouzimpré à Essel et Nancy. C'est pour cela d'abord que ce projet est aujourd'hui nécessaire. Ce projet va complètement dans ce sens. Il offre une véritable cohérence territoriale, mais également en termes d'attractivité et de développement économique. Nous sommes à la convergence de plusieurs opportunités énormes pour la métropole. Il y a d'abord une emprise foncière importante et disponible. Il y a des besoins métropolitains recensés qui trouvent réponse dans ce projet. Il y a des investisseurs intéressés. L'idée serait de proposer un pôle métropolitain d'activité, de sport et de loisirs. Le contexte actuel permet d'imaginer en toute logique le développement économique à partir d'activités principalement sportives et de loisirs. C'est un modèle ressemblant à certaines villes aux États-Unis dans lesquelles se développe sur une partie seulement d'agglomération, de façon concentrée, une activité repérée et spécifique. Cela donne une lisibilité et par conséquent l'attractivité. Nous avons au bord de l'étang de la Méchelle des activités nautiques, canoë-kayak, aviron, du côté Nancy. Nous avons à Tomblaine le stade Marcel Picot et ses annexes pour le football, le stade Raymond Petit pour l'athlétisme, les gymnases du COSEC qui sont à Tomblaine et les installations sportives, la piste d'athlétisme aux alentours, par exemple. La maison régionale des sports où l'on recense pas moins de 113 employeurs. On peut, et je pense que c'est indispensable, aller un peu plus loin à Saint-Max-Essey et considérer le CREPS, qui sera base arrière des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Et nous avons tout autour de la plaine Flagelle des installations intéressantes, espace Jean Jaurès, salle de gymnastique, dojo, gymnase. Sur le site de l'aérodrome, nous avons une fausse piste de karting dont je parlais, appelée à se développer, une école de pilotage aéronautique et un ensemble d'entreprises dénommées la communauté du drone. Si nous avions le projet de faire en sorte que la caserne des pompiers de Tomblaine déménageant, cette parcelle soit immédiatement investie pour développer une activité autour du sport ou du loisir, on aurait ainsi une continuité géographique pertinente. Et au milieu de tout cela, nous avons des investisseurs qui font des propositions. Financièrement, ce sera intéressant pour le Grand Nancy, puisque ces investisseurs vont acheter les terrains, mais plus encore, ces investisseurs proposent des infrastructures dont le Grand Nancy a besoin. Chiterai en particulier la patinoire, très attendue, ou encore une possibilité de mutualisation de parking dans le cadre de l'usage du stade Marcel Picot. On est à 200 mètres à pied en passant par le tunnel sous l'avenue de la Fraternité. Et puis la ligne numéro 3 de transport en commun, devant traverser à terme la plaine Flagelle en direction des Célé-Nancy, des parkings pourront être également mutualisés pour servir de parking relais. L'idée de proposer un développement très recentré sur l'activité sportive et de loisirs, en y ajoutant forcément quelques commerces de restauration, vise à positionner ce projet pour qu'il ne soit pas en concurrence avec les commerces du centre-ville de Nancy ou ceux de la Porte Verte. On peut imaginer une mise en cohérence de l'ensemble de ces activités en termes d'offres pour le public du Grand Nancy, voire même d'un public venu de beaucoup plus loin. Cela signifie activité et emploi. Ce projet rapportera financièrement de l'argent à la collectivité, beaucoup plus qu'il ne lui en coûtera. Enfin, j'ai parlé de convergence d'opportunités, emprise foncière disponible, originalité du projet, investisseur volontariste. Il y a une autre opportunité qui, à mon sens, ne devrait pas être négligée. J'ai dit que le CREPS serait base arrière des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Si nous nous engageons dans ce projet dès maintenant, il sera possible d'associer la métropole par ce projet à cette labellisation. Là encore, en termes de lisibilité et d'attractivité, nous pouvons jouer gagnant. J'émets donc le vœu que cette délibération ne reste pas délibération de principe, que l'on entre maintenant réellement dans une phase opérationnelle.
Merci, Monsieur Passalfini.
Micro, pardon.
Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je crois qu'ici, enfin, en tout cas, Hervé Ferron a bien décrit, comment dirais-je, les enjeux de ce projet. Moi, je crois que cette délibération aujourd'hui pose l'acte fondateur. On le parlait tout à l'heure pour le projet métropolitain, mais elle pose l'acte fondateur du départ de comment dire, un projet mûrement réfléchi. Aujourd'hui, Hervé l'a dit, voilà, on retrouve une cohérence sur ce territoire. Je rappelle quand même que la Méchelle, avec tout ce qui s'organise autour de la Méchelle. D'ailleurs, tu as oublié le skatepark, hein, le magnifique skatepark qui a imaginé la ville de Nancy. En lien avec tout ce qui existe là, c'est quand même le centre géographique de la métropole. Et effectivement, en allant vers l'est, jusqu'aux confins de Pulnoy avec son golfe, je crois qu'il est important de trouver une relation de cohérence au travers des pratiques sportives, au travers de l'économie du sport. Donc ça, on l'avait en tête depuis longtemps. Je crois que les intelligences respectives avec les services ont permis aujourd'hui d'élaborer un début de projet qui semble intéressant. Alors, probablement que de travailler un petit peu en restreint permet d'avancer un peu plus vite. Néanmoins, derrière, il est intéressant aussi de confronter aussi nos idées avec d'autres maires, puisqu'on est quand même sur le secteur des plaines Flagelle et que, notamment Michel Canada au titre de l'urbanisme, Jean-Pierre Dessin et d'autres au titre du patrimoine, c'est bien aussi parce qu'il y a toute une articulation de mobilité à imaginer autour de ça, puisque à la fois sur la rue de la Fraternité, mais aussi sur la rue Eugène Potier, il va y avoir de la circulation, donc tout cela mérite d'être bien pensé. Néanmoins, on ne doit pas être sur les freins, et je rejoins en ça Hervé, on doit être un accélérateur, parce que les investisseurs que nous avons aujourd'hui, ne le resteront peut-être pas longtemps à nos côtés, puisque le propre, c'est justement de placer leur argent pour le faire fructifier. Donc là, je pense qu'on a un projet intelligent, on a de la volonté. Moi, je crois qu'il n'y a plus qu'à mettre maintenant les bons grains sur les bons rails, si je peux me permettre l'expression, pour faire en sorte qu'on avance vite. Voilà, je crois qu'aussi, Je voulais l'évoquer tout à l'heure dans mon propos, mais on est sorti des. Nos concitoyens sont sortis de l'âge du métro, boulot, dodo. Je crois qu'aujourd'hui, le loisir, la pratique sportive, les loisirs, c'est vraiment ce qui. Ils prennent ça en charge, et on le voit d'ailleurs. Et donc, la métropole doit être aussi un acteur, on parlait de bien-être, doit être un acteur pour proposer justement à ce qu'est les nouvelles orientations choisies par nos concitoyens au XXIe siècle, de leur proposer des équipements qui leur permettent effectivement d'assumer leurs loisirs, leur santé physique. Et donc je crois que là, il y a ce projet-là. Et alors, qui plus est, parce que ça, il y a aussi, on parle toujours un peu d'argent, qui plus est, Hervé Ferron l'a rappelé, eh bien, ça ne devrait pas coûter très cher à la métropole sur un projet comme celui-là, puisqu'il y a un foncier plutôt bien placé et qui permettra de bien le valoriser pour permettre finalement autour d'organiser tout ce qui est mobilité. Donc oui, moi je suis confiant sur ce projet. Voilà, je crois que les volontés sont là, de part et d'autre. Donc maintenant, j'ai envie de dire que voilà, il faut que ça roule et que ça roule bien, parce que derrière, on l'a bien vu, il y a aussi des acteurs qui attendent des équipements qui ont disparu, en particulier la patinoire. Donc on avait non pas pris des engagements, mais on a dit qu'on travaillerait le plus vite possible pour ressortir une patinoire de terre. Eh bien, je crois que là, on a cette opportunité qu'il ne faut pas la louper. Merci.
Merci. Bien, je pense d'ailleurs que avec Michel Canda, avec d'autres, dans le cadre du territoire à enjeu de l'est de l'agglomération, il faudra qu'on jette les bases. Il y a déjà un pôle ATP autour de la porte verte. Il faudra qu'on fasse une synthèse un petit peu de tous ces efforts. En tout cas, les bases juridiques et politiques sont aujourd'hui assises. Je mets donc au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie de cette unanimité. Alors, l'affaire suivante est au rapport de M. Passalfini sur le Zénith. Pierre, si tu veux.
C'est pas Laurent Hénard ?
Ah, pardon.
L'aéropole.
L'aéropole. J'ai sauté Laurent Hénard. Ah.
C'est pas grave. Sur l'aéropole, à côté des sports et tout, c'est circonstance.
Pas très sportif.
Alors, je rappelle que nous avons confié au 1er janvier 2012 à une filiale de la Chambre de commerce métropolitaine l'exploitation du site de Grand-Nancy-Tomblaine Aéropole pour une durée de 25 ans. Donc chaque année, évidemment, comme toujours dans une délégation, nous avons un rapport d'activité qui présente l'exercice 2017. Deux missions principales ont été confiées et sont toujours confiées, bien sûr, à l'exploitant. D'abord, le fonctionnement du lieu. L'aéroport fonctionne 365 jours par an, 24 heures sur 24. Si on regarde les chiffres, ils sont économiquement stables et plutôt positifs en termes d'activité. Économiquement stables puisque le chiffre d'affaires continue à tourner entre 1 110 000 et 1 120 000 euros, avec une dotation d'équilibre de notre métropole, elle aussi stable, à 450 000 euros, indexée bien sûr sur l'inflation. Quand on regarde l'évolution, elle a augmenté par rapport à 2016, de 24%, mais il y avait une baisse en 2016 de 16%, vous le savez, notamment liée aux travaux sur la piste. Si on regarde sur la séquence 2012-2017, l'augmentation est quand même sensible et elle porte avant tout sur la filière sanitaire. Les vols d'affaires sont stables et le sujet loisir-école, lui, a connu des difficultés au moment de la réorganisation de l'aéroclub de l'Est. Maintenant que cette réorganisation est derrière nous, la fréquentation reprend. Deuxième mission importante, évidemment, donnée à l'exploitant, l'investissement sur le site, qui avait besoin d'être remis à niveau. 7 millions d'euros d'investissement étaient programmés. Ils auront été, au 31-12-2017, entièrement réalisés, avec principalement, vous le savez, l'allongement de la piste, hein, de 1400 mètres à 1600 mètres, et un nouveau système de balisage. C'est indispensable, évidemment, pour le développement de l'activité aviation d'affaires, si on souhaite progresser dans cette voie. Plusieurs locaux désaffectés et plus utilisés sur le site ont fait l'objet aussi de premières rénovations. Là, il s'agit de permettre l'implantation d'entreprises qui ont besoin d'être directement connectées à l'aéroport sur le site même de l'aéroport. 3 entreprises supplémentaires se sont installées en 2017 pour emporter le nombre à 24. Voilà ce que je pouvais dire, Monsieur le Président. Sur le rapport d'activité.
Merci.
Qui a laissé son micro ouvert? Bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions, remarques? S'il n'y a pas de questions, remarques, je propose très simplement que nous prenions acte de ce rapport. Et je propose qu'Éric Pensalfini, maintenant, nous parle de la signature de la convention financière tripartite avec le Zénith Grand Nancy et parler de l'acte d'acceptation dans le cadre de la concession du service public pour la gestion et l'exploitation du Zénith.
Bien, chers collègues, simplement, lors de la séance du 6 juillet, je vous rappelle que le Conseil métropolitain avait approuvé le groupement Vinci, Espace et Caisse des dépôts dans le cadre de la concession de services publics pour notre Zénith, que nous avions approuvé aussi le contrat de concession avec ce même groupement, et enfin, nous avions autorisé le président à signer ce contrat. Donc, tout simplement, cette délibération, eh bien, c'est une modalité technique et juridique, comment dirais-je, qui nous oblige à préciser par une délibération l'accord de signature de deux annexes au contrat. Vous avez, c'est l'acte d'acceptation, le premier qui concerne effectivement les contributions, la contribution forfaitaire, et enfin aussi le deuxième point, c'est l'autre acte d'acceptation qui concerne l'indemnité de fin anticipée. Enfin, cette délibération vous propose aussi de permettre au président de ratifier la signature, et enfin, surtout, et il est là pour le dire, est proposé de désigner trois membres pour le comité de suivi pour notre Zénith.
Merci. Les interventions. Madame, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, je me pose deux questions par rapport à cette délibération. Une première question sur le fond et une deuxième sur la forme. Donc, je vais commencer par la forme. Comme vient de le rappeler le vice-président, donc, dans la délibération du 6 juillet, il avait déjà été... Enfin, d'ailleurs, j'avais voté pour... Et depuis, donc, j'ai un petit peu regardé plus en détail le vote. Aujourd'hui, il semblerait qu'on vote, que l'on accorde donc au président la possibilité de signer deux annexes supplémentaires par rapport à ce qui avait été voté le 6 juillet. Donc, il me semble que ces deux annexes ont déjà été signées par le président. Donc, en fait, le vote que l'on nous propose aujourd'hui aurait déjà, enfin, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose ? Ensuite, sur le fond, donc j'avoue que le fait de me plonger cet été dans le dossier de Grand Nancy Thermal m'a permis de comprendre certains mécanismes financiers. Et ce dont je souhaite parler à propos du Zénith, on va le retrouver également dans le dossier Grand Nancy Thermal, puisqu'il s'agit en réalité donc de transférer à la banque du délégataire, si j'ai bien compris, les créances que ce dernier détiendra sur le Grand Nancy, notamment au titre de la contribution forfaitaire. Donc ainsi, au lieu de verser chaque année cette contribution directement au délégataire, qui elle rembourserait son emprunt à la banque, la métropole donc versera directement à la banque le montant de cette délégation forfaitaire, de cette contribution forfaitaire. Donc ce dispositif qui est apparemment purement technique constitue en réalité une garantie d'emprunt, c'est-à-dire que si au bout de 5 ou 10 ans le concessionnaire venait à faire faillite ou s'il était mis fin à l'exécution de ce contrat de façon anticipée pour quelque raison que ce soit, y compris par la faute du délégataire, les contribuables du Grand Nancy devraient quand même rembourser la dette de celui-ci à hauteur de la contribution forfaitaire due au titre des 25 années initialement prévues par le contrat. Et c'est le cas également donc pour Grand Nancy Thermal, puisque pour Grand Nancy Thermal, il s'agit de 27 années de versement de cette contribution. Donc étant en profond désaccord avec cette manière de faire, faire supporter par les contribuables grand nancéens en ces temps budgétaires contraints, donc les risques pris par les sociétés délégataires, que ça concerne d'ailleurs soit le projet Grand Nancy Thermal ou le Zénith, je ne pourrai pas, en tous les cas pour ma part, voter pour cette délibération. Je vous remercie.
Bien. Enfin, quelques mots, parce que là, on est vraiment sur des choses techniques. Déjà, c'est le principe même, ce que vous évoquez, c'est le principe même d'une concession. Je vous rappelle quand même qu'avant, et de mémoire, c'était la collectivité qui payait tout. Là, dans un phénomène concessif, il faut quand même accorder au fait que le groupement, c'est lui qui va prendre tous les risques. Et entre parenthèses, s'il ne l'avait pas fait, s'il n'avait eu personne, c'est nous qui aurions dû payer l'ensemble des travaux. Or là, il y a eu un accord qui fait qu'on va avoir un outil Vraiment, vous avez vu le projet, il a été montré d'ailleurs en slide et en images. On va avoir un outil qui va, dans le domaine de la culture, de la musique en particulier, eh bien, être performant par rapport à ce qui se passe autour. Nous avons, et comme dans tous les modes concessifs, y compris d'ailleurs avec le bail amphithéotique que nous avons avec le golf, une clause de revoyure annuelle pour voir comment évolue, pour voir si les investissements promis sont faits. Et donc, effectivement, la redevance, entre parenthèses, la redevance, on était parti, souvenez-vous, si vous avez bien écouté le dossier, et de mémoire, les premières projections, on était à un peu plus d'un million ou un million deux de redevance. Et grâce aux discussions menées par notre AMO, nous sommes redescendus à une contribution aujourd'hui à 600 000 euros, ce qui était moins que ce que nous donnions hier. Donc oui, il y a des risques qui sont pris par le délégataire, mais encore une fois, si demain, dans 4 ou 5 ans, ce même délégataire venait à pas assumer, à assurer le financement de ce projet, on, bien entendu qu'on va le revoir et en rediscuter avec lui.
Ça, je crois qu'il y en a quelques-uns qui auraient intérêt à se pencher de manière plus approfondie sur ces mécanismes, éviter les jugements superficiels ou faux. Mais ça, c'est un autre débat et nous travaillons sur ces questions avec beaucoup de patience et de compétence. Je veux dire, parce que le parallélisme a été fait, ça permet aux concessionnaires d'avoir des taux plus bas. Et d'autre part, en cas de faillite ou d'un autre événement, la métropole récupère un équipement neuf. Donc il ne faut pas avoir une courte vue, il faut avoir une jumelle avec les deux yeux de droite et de gauche. Hein ? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté. Alors, il y a des désignations. Oui, j'y arrive. J'ai même oublié le comité de suivi pour... Tomblaine, tout à l'heure, je vais y revenir. Je vous propose Monsieur le maire de Maxéville, s'il est content d'avoir un zénith en meilleur état, Madame Angèle et naturellement Éric Pincelfini. Sur ces désignations, je mets aux voix, pas d'objection, pas d'abstention, adopté. Donc sur le comité de suivi, naturellement, Tomblaine, j'ai proposé que naturellement Monsieur le maire de Tomblaine, Monsieur Éric Pincelfini et en tant que de besoin le président de la métropole, pour qu'on puisse en liaison avec le territoire à enjeu avoir une réflexion globale sur l'ensemble de cette partie de l'agglomération. Pas d'opposition, d'abstention, adopté. Voilà, c'était sur la délibération sur la plaine Flagelle. Ensuite, il m'appartient de rapporter la délibération numéro 8, le transfert des missions de l'Office de tourisme à la SAPL Grand Nancy Congrès et événements. Il y a la 7. Ah oui, alors la 7, c'est Eric. Voilà, un petit coup de volet.
Ça va aller très vite, Monsieur le Président, comme tout le temps, dès qu'il y a un événement, et on vous le propose, puisque là, il s'agit d'un événement international de volleyball garçon, qui aura lieu dans quelques jours sous la férule du nouveau président du Grand Nancy Volleyball. Donc le budget est de 130 000 euros. On nous demande une participation à la fois dans sa subvention mais aussi dans les interventions que feront les services du Grand Nancy à hauteur de 40 000 euros.
Bien. Pas de remarques. Pas d'opposition. Adopté. Alors, l'affaire suivante, c'est le transfert des missions de l'Office de tourisme à la SAPL Grand Nancy Congrès et événements que préside Pierre Boileau. C'est le président qui va rapporter. Oui. Vous savez, mesdames et messieurs, chers collègues, que la législation a évolué et que, au titre des activités économiques, le tourisme est maintenant rattaché aux fonctions de la métropole. Vous savez qu'à l'échelle métropole, l'organisation en place repose sur deux structures, Nancy Tourisme, Office de tourisme du Grand Nancy, outil de promotion et d'agrément, et Grand Nancy Congrès et événements.
Nous sommes donc là sur une concertation très réussie dès le départ et une mise en œuvre d'une structure stratégique qui va s'appeler Destination, c'est ça ?
Nancy.
Destination Nancy. L'approche et l'appropriation plus poussée des enjeux et des leviers de croissance en faveur de l'activité touristique, et c'est aussi une manière de répondre à ceux qui disaient à juste titre il faut plus travailler avec le Sud 54, dans le cadre de la Multipole. Je rappelle que nous avons là une étude cofinancée par la Métropole, cofinancée par le syndicat mixte de la Multipole et le soutien de la Caisse des dépôts. Et qu'à partir de là, nous engageons une étude touristique sur la totalité du Sud 54. L'activité touristique aujourd'hui, quand on voit les chiffres de présence dans les endroits les plus subtils de notre beau pays, la France, on se dit qu'il y a là une manne tout à fait intéressante et utile. Donc nous sommes en situation de mettre en application, en liaison parfaite avec la ville de Nancy, qui avait la responsabilité de l'office du tourisme, qui s'appelait l'office de tourisme de la ville. Il sera intégré dorénavant à la société qui gère Grand Nancy Congrès Événements à compter du 1er janvier 2019 pour mener à bien ce projet structurant pour le territoire, un accompagnement global des différentes étapes de la préparation du transfert des missions, des activités et du personnel de Nancy Tourisme au sein de la SAPL sera effectué. Les modalités juridiques et financières de cette intégration sont exposées et soumises pour approbation au Conseil métropolitain et aux instances des deux structures dans le courant du dernier trimestre 2018. Donc, après avis favorable de votre commission attractivité, approuvez le projet de rapprochement de Nancy Tourisme et Grand Nancy Congrès Événements et d'approuver l'élargissement des missions confiées à la SAPL Grand Nancy Congrès et Événements en vue de l'exercice de l'activité d'office de tourisme à compter du 1er janvier 2019. Voilà, Monsieur le Président. Est-ce que ça vous convient ? Y a-t-il des observations ? Pas d'observation, pas d'opposition, d'abstention adoptée. Alors, ensuite, c'est Pierre Boileau, taxe de séjour, évolution consécutive à la loi de finances 2017 et proposition de nouvelles grilles tarifaires.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire que la taxe de séjour a été instituée pour nous à compter du 15 novembre 2002. La mise en œuvre de modifications de la loi de finances 2017 nous amène un certain nombre de modifications avec un barème par nature et de catégorie d'hébergement, et en particulier la mise en place d'un taux proportionnel pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, ainsi qu'une augmentation du tarif appliqué pour quatre catégories. Alors, je rappelle que les recettes qui sont faites avec la taxe de séjour sont destinées à financer des actions de nature à favoriser la fréquentation et l'économie touristique. Alors, pour rappel, les redevables de la taxe de séjour sont les personnes qui séjournent sur le territoire, qui ne sont pas domiciliées dans une commune de la métropole et qui ne possèdent pas de résidence, raison pour laquelle ils seraient redevables de la taxe d'habitation. Les personnes bénéficiant du régime des exonérations obligatoires sont les personnes mineures, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employé dans la commune, les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire. La taxe de séjour est applicable, quelle que soit la nature de la location, à titre onéreux sur l'ensemble des 20 communes durant la période de perception fixée par la métropole sur soit toute l'année. Je voudrais vous donner quelques chiffres. En 2017, la collecte de la taxe de séjour a représenté 655 022,50 €. Elle avait progressé de 12,5% par rapport à 2016. Mais cette augmentation s'explique par un travail de relance régulier qui permet de s'assurer du bon suivi des déclarations par les hébergeurs, quelquefois ils pouvaient oublier, et surtout de réduire le délai de règlement en décalage parfois de plusieurs mois, ce qui faisait qu'on pouvait avoir des décalages d'une année sur l'autre avec les fins d'année et qui enregistraient notamment des fêtes. Pour 2018, le montant prévisionnel serait de 670 000 €. Concernant l'affectation des dépenses, les crédits de la taxe vont donc à une subvention pour Nancy Tourisme, à une subvention pour le bureau de l'événementiel ou Convention Bureau, tourisme d'affaires, je rappelle, une subvention à la ville pour les fêtes de Saint-Nicolas, une subvention aux boucles de la Moselle. Et je rappelle que, par ailleurs, nous remboursons un emprunt qui avait été effectué pour la mise en place du jalonnement hôtelier. Alors, on envisage un certain nombre d'actions qui ont été présentées au comité de pilotage de la taxe de séjour le 7 septembre dernier. On financerait ainsi la participation du Grand Nancy au comité d'itinéraire de la véloroute V50. C'est un itinéraire cyclotouristique qui relie Luxembourg à Lyon. Ensuite, on vous présentera cette délibération au mois d'octobre. Les nouveautés introduites par la loi de finances rectificative concernent la taxation proportionnelle des hébergements en attente de classement et sans classement, la revalorisation de certaines limites tarifaires, la suppression des arrêtés de répartition des hébergements soumis à la taxe de séjour, l'obligation de collecter, ça c'est important, la taxe de séjour pour les plateformes de location, la modification du tarif applicable aux emplacements dans les aires de camping-car ou dans les parcs de stationnement touristique. Nous proposons donc, en accord et avec l'accord des hôteliers notamment, une évolution de la grille tarifaire qui n'a pas été revue depuis 2015. Les propositions de tarification seront les suivantes. Pour les, les camping-cars seront désormais classés avec des terrains de camping classés en 3, 4 et 5 étoiles et non plus avec les hôtels de première catégorie. Les équivalences de classement sont supprimées. Pour les hébergements de tout type sans classement ou en attente de classement, il sera appliqué un taux fixe à 4% du coût par personne de la nuitée hors taxe, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité, soit celui adopté pour les palaces, alors c'est un peu complexe mais c'est comme ça, ou s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de 4 étoiles. Dans le cas du Grand Nancy, au vu de l'évolution tarifaire, il conviendra d'appliquer le tarif maximum de 2,30 € en cas de dépassement de cette limite, soit dès que le tarif de 57,50 € annuité est dépassé. Il est proposé de modifier ensuite les tarifs des catégories suivantes. Pour les palaces, 2,20 € au lieu de 2. Pour les hébergements, 2,20 € au lieu de 1,50 € en catégorie 5 étoiles. Pour les 4 étoiles, 2 € au lieu de 1,10 €. Pour les hébergements classés 3, 1,20 € au lieu de 0,90 €. Pour les 4 et 5, 0,90 € au lieu de 0,70 €. Et enfin, pour les hébergements, hôtels de tourisme, meublés de tourisme, villages de vacances, 0,75 € au lieu de 0,50 €. Je rappelle que nous collecterons par quadrimestre. Voilà, Monsieur le Président, les taxes que nous appliquerons pour le séjour à compter du 1er janvier 2019. Je rappelle que c'est en parfait accord avec le comité de suivi de la taxe séjour, c'est-à-dire les hôteliers et restaurateurs.
Merci. Y a-t-il des remarques ? Pas de remarques, pas d'opposition, d'abstention. Adopté. Madame Leroy, conservatoire régional du Grand Nancy, modalité du partenariat pour les classes à horaires aménagés.
Merci, Monsieur le Président. Cette délibération a pour objet le renouvellement de la convention de partenariat avec la Direction académique des services de l'éducation nationale et la ville de Nancy pour la mise en place des classes à horaires aménagés au conservatoire régional du Grand Nancy. Cette convention tient compte de la poursuite du transfert des classes à horaires aménagés de l'école Didion Rographe vers Alfred Mézières. Il est à noter que les jours d'application de la convention seront modifiés pour l'année 2018-2019 en raison de la modification des rythmes scolaires pour les établissements primaires de la ville de Nancy à compter de la rentrée de septembre 2018.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition. Adopté. Ensuite, une communication sans vote. C'est le rapport annuel des services exploités en régie, culture scientifique et technique, notamment.
Monsieur le Président, émaillé d'une petite présentation visuelle. Pour nos trois établissements de culture scientifique et technique exploités en régie. En ce qui concerne premièrement les jardins botaniques du Grand Nancy et de l'Université de Lorraine, comme vous le savez, ils sont situés sur deux sites. Il y a le jardin Jean-Marie Pelt à Villers-les-Nancy et les jardins du Haut-Châtelet dans les Vosges. Leur mission, la conservation, la recherche scientifique, d'éducation du public et la diffusion de la culture scientifique et technique. Alors pour l'année 2017, une année particulièrement riche en beaux événements. Après l'inauguration du nouveau bâtiment technique en 2016, l'année 2017 a vu la fin de la rénovation de la chapelle Sainte-Valérie. L'accueil du public est à nouveau possible et des expositions temporaires seront accueillies régulièrement. Les jardins ont par ailleurs accueilli plusieurs expositions, une exposition sur les orchidées, les écorces du monde en association avec l'année de l'arbre, un week-end celtique, une soirée rose, un week-end au sommet pour découvrir les plantes de montagne, sans compter tout au long de l'année de nombreuses animations et des animations dédiées aux journées du patrimoine. La diversité de ces programmations a permis d'augmenter la fréquentation des visiteurs de 40%, passant pour l'année 2017 à un chiffre record de 91 500 entrées. Pour le Muséum Aquarium, labellisé Musée de France, il accueille des collections d'histoire naturelle et des collections vivantes. L'année 2017 a été exceptionnelle, tant en matière de fréquentation du public avec plus de 117 000 visiteurs contre 95 900 en 2016, qu'en matière de programmation. L'exposition Moche a conquis tous les publics avec un chiffre record de fréquentation, le meilleur chiffre d'ailleurs depuis la création du musée en 1933. Elle a reçu en outre deux distinctions, le Grand Prix Capcom lors du Forum annuel de la communication publique et territoriale, ce qui est une reconnaissance nationale, et le prix du Muséum Joyeux, décerné par l'association MOMART pour récompenser un musée pour la qualité de sa politique d'accueil et sa programmation, surtout à destination des jeunes publics. Le musée accueille en outre particulièrement le public scolaire, depuis la maternelle jusqu'au lycée, et qui bénéficient de visites libres ou commentées. La programmation s'est diversifiée avec des rendez-vous tels que les confs curieuses, les soirées inopinées et bien d'autres. A souligné l'occupation de l'amphithéâtre Lucien Cueno au lieu de la médiation scientifique au cœur de la ville de Nancy qui a accueilli plus de 114 manifestations. Enfin, le musée de l'histoire du fer, situé à Jarville-la-Malgrange sur le domaine de Montaigu, également musée labellisé Musée de France et qui a reçu le label Patrimoine du XXe siècle. Sa mission, témoigner de l'évolution des techniques et des modes d'utilisation des métaux. Il dispose en outre d'un laboratoire d'archéologie des métaux qui le distingue tout particulièrement dans le domaine de la restauration archéologique et ethnographique. Pour l'année 2017, elle a été un petit peu endeuillée par 4 mois de fermeture de juin à septembre suite à un incendie pendant les travaux dans le hall d'accueil. En revanche, les visites au château de Montaigu ont permis d'enrichir l'offre d'accueil des visiteurs. Le passé sidérurgique de la Lorraine a été mis à l'honneur avec 2 expositions, retour à Uckange et les paysages de métal. Quant au laboratoire d'archéologie des métaux, il a organisé les journées des restaurateurs en archéologie qui a réuni 150 professionnels internationaux. Enfin, l'exposition Tour Eiffel, qui fonctionne encore jusqu'en janvier 2019, a accueilli un nombreux public et particulièrement un public scolaire avec des jeux concours qui ont permis de se réapproprier notre patrimoine historique tout en s'amusant. Pour finir, je voudrais ici, comme je l'ai fait à la Commission, saluer le travail de l'ensemble des équipes qui, grâce à leur enthousiasme et leur investissement, concourent au succès de nos établissements et font leur renommée non seulement sur le territoire métropolitain, mais aussi sur l'ensemble de la région Grand Est. Ainsi, nos musées apparaissent dans le podium de tête sur les musées en Lorraine et sur le Grand Est, particulièrement le Muséum Aquarium et les Jardins Botaniques arrivent premiers en musée des sciences.
Merci, Madame la Vice-Présidente. Pour vous citer un chiffre, moi j'étais samedi au Jardin Botanique, il y a eu 1400 visiteurs dans la journée de samedi au Jardin Botanique. Et le Muséum Aquarium a fait 110 000 visiteurs dans l'année qui vient de s'écouler. C'est autant que le musée des Beaux-Arts sur la place Stanislas.
Monsieur le vice-président.
Merci, Monsieur le Président. La communication de Mme Christine Leroy mérite une intervention. Je voudrais déjà, moi, saluer son travail. Et depuis longtemps, on se connaît. Et quand je m'occupais de culture scientifique et technique à la région Lorraine, on travaillait déjà bien ensemble. Mais surtout, à dire à Mme Christine, c'est que tout à l'heure, on a parlé de projets métropolitains et d'attractivité des territoires. Eh bien, la culture scientifique, technique et industrielle participe à l'attractivité du territoire. C'est de rapprocher les sciences, et c'est fondamental de rapprocher les sciences au plus près de nos concitoyens. Ça participe à l'éveil pédagogique des enfants, mais aussi des grands anciens. C'est de leur donner les bonnes clés de compréhension du monde, et ça permet aussi de lutter par moments à l'obscurantisme, en quelque sorte. Moi, je suis toujours effrayé quand j'entends un certain nombre de personnes me parler de science sans avoir les bonnes clés de compréhension. Grâce à la culture scientifique, technique et industrielle, ça permet justement de donner à chacun les bonnes informations, les bonnes clés de compréhension du monde pour se donner son propre opinion. Et puis, ça fait partie, je parlais tout à l'heure d'identité autour du projet métropolitain, la culture scientifique, le jardin botanique, le musée du fer à Jarville, le muséum et l'aquarium, et tous ces lieux de culture scientifique, ça participe à l'identité forte autour de la métropole du Grand Nancy. On a parlé de matériaux, on a une histoire à travers les matériaux, on a parlé de transition énergétique, on a une histoire à travers la transition énergétique, et donc la culture scientifique, c'est pas une culture à côté, c'est une vraie culture. Elle est importante, et le faire partager au plus grand nombre, c'est un défi. Et ce que nous faisons à travers nos musées, à travers nos centres de culture scientifique, les rapprocher au plus près de nos citoyens, c'est fait partie de l'attractivité du territoire. Donc voilà, Marie-Christine, je voulais dire cela.
Merci. Pas de remarques, il n'y a pas de vote. Allez, nous passons au rapporteur suivant, Malika Dati. Communication sur le rapport annuel des délégations de services publics et des services exploités en régie, transport et déplacement.
Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit de présenter le rapport annuel de notre délégataire, Transdev, sur un contrat de délégation de services publics qui a été amorcé le 1er janvier 2012 et qui se termine le 31 décembre 2018. Alors, concernant l'offre de services pour 2017, nous avons 4 lignes Stanway, 37% de l'offre en kilomètres et 71% au niveau de la fréquentation, 7 lignes principales, 29% de l'offre kilométrique et 19% de la fréquentation, et 8 lignes de maillage de proximité spécifique qui représentent 34% des kilomètres parcourus et 10% de la fréquentation. Plus de 8 millions de kilomètres commerciaux, donc 13,3% en sous-traitance. Pour le parc, 213 véhicules, 25 trams, 40 BHNS, 31 bus articulés, 102 bus standards et 15 minibus pour une moyenne d'âge de 7,7 ans. Alors, au niveau des offres en matière de courses, alors, il y a des courses qui sont non effectuées pour un total de 12 956 courses, qui représentent 2,17%. Notamment une augmentation sur les bus, puisque 9057 courses en bus non effectuées et 3899 courses tram non effectuées pour 2017. Un léger mieux sur le tram, puisque en 2016, nous étions à 4,31. Alors, les raisons, la raison majeure, c'est l'augmentation du nombre de conducteurs absents ou en retard sur les 250 000 kilomètres également commerciaux qui sont non faits, dont 8 000 kilomètres pour cause de grève, 120 000 kilomètres pour d'autres causes humaines. Alors, comme vous l'avez dans le rapport, la fiabilité est le point amélioré en priorité pour notre délégataire. Alors, les conséquences, et en plus des recettes tarifaires qui sont en baisse, réfaction de 4 euros par kilomètre, ce qui fait une perte pour le délégataire d'un million d'euros pour 2017, hors malus et perte de recettes. Concernant la qualité de service, sur 14 critères, seuls 4 critères ont été remplis et permettent donc un bonus. 6 critères n'ont pas été remplis, qui donnent en conséquence, bien évidemment, un malus. Les taux de course non effectués dépassent chaque trimestre tous les seuils qui sont à 3%. Donc la pénalité, comme vous le savez, est de 15 000 euros chaque trimestre. Au niveau de la ponctualité, elle reste inférieure aux engagements de plus de 20% de passages qui ne sont pas à l'heure. 3/4 de ces services ont des retards de plus de 3 minutes et 1/4 en avance de plus de 1 minute. Au niveau de la fraude, 12% en 2017, une augmentation de 1,4% entre 2016 et 2017. Au niveau de la fréquentation, 27 millions de validations, une augmentation de 4,2%. Les quatre premières lignes assument 71% en matière de validation, la ligne 1, 38%, la ligne 2, 18% et la ligne 3 et 4, 14,7%. Les lignes structurantes portent l'augmentation de plus de 6,1%. Pour le reste du réseau, il reste stable. La ligne 10 plus fréquentée par la polarité Nation-Vélodrome et la ligne 5, résultat qui est décevant. Alors, je parle de 2017 puisqu'on a eu des améliorations pour 2018. La performance du réseau et du groupe transport avait optimisé suite à la suroffre entre 2014 et 2015. Donc, l'optimisation avait été effectuée en 2016. Les recettes tarifaires, plus de 6,3% à plus de 14 millions d'euros. La métropole perçoit 100 000 euros au titre de l'augmentation de ses recettes. Le bilan financier, c'est une dépense d'exploitation de plus de 61 millions d'euros et des recettes contractuelles annuelles de plus de 19 millions d'euros. La contribution financière forfaitaire, elle est plus de 41 millions. Donc la métropole a versé 42 917 479 millions. Le délégataire doit reverser 1 026 700 111,78 €. Le financement de ces services, donc du service du réseau STAN, est assuré par 3/4 par les contribuables, qui représentent 74%, et 1/4 par les usagers, donc 26%. Je passe au parking, je continue.
Oui.
Alors, au niveau des parkings métropolitains, 4 parkings, fréquentation de plus 11%, recettes plus 10,1%. Les tarifs sont restés stables en 2017, mise en place d'un tarif spécifique pour certains samedis à 4 heures, donc sur 12 samedis. Parking tiers, 444 places, 70 places de dépose minute, une hausse de 41,3%. Les recettes, plus de 30,2% pour plus d'un million cinq d'euros. Investissement d'amélioration, 46 709 euros. Les dépenses de fonctionnement, plus de 5 millions d'euros. Fonction de surveillance pour ces quatre parkings qui est assurée 24-24 et 7 jours sur 7. Pour le parking Saint-Léon, une légère baisse puisque nous avons 168 000 entrées pour 2017. C'est à 178 000 en 2015. Les recettes, 697 000 en 2017 et plus de 714 000 en 2016. Les dépenses de fonctionnement, 1 660 000 19 euros. L'investissement, 73 487 euros, deux bornes de recharge de véhicules électriques et une rampe pour les personnes à mobilité réduite. Parking République, 455 places, avec 131 834 entrées, donc avec une baisse de 18,3%. Suite à des travaux, notamment 195 abonnés, plus 12,7%. Donc, ce sont des clients entreprises. Les recettes, moins 9,6%, 998 300 32 euros. Les dépenses, 376 755 euros. Et l'investissement, 42 368 euros. Et pour le parking Kennedy, 309 places, plus de 0,8% fréquentation, 73 351 entrées, les recettes 332 780 euros, fonctionnement 146 467 euros, notamment en gardiennage et en nettoyage, l'investissement 185 367 euros. Alors, pour le vélo, donc les deux dispositifs, VéloStan Boutique, donc la maison du vélo avec ses 8 antennes, 1014 vélos mixtes, plus 6 permanents, 3 personnes en contrat aidé. Cette année, enfin l'année dernière, en 2017, on a eu une progression de 2,5% concernant les contrats, puisqu'il y a eu 2228 contrats, plus de 419 locations de vélos spéciaux, les recettes de fonctionnement 47 039 et les dépenses d'investissement 47 239 42 euros, notamment pour les achats de vélos. Et je vous invite, puisqu'il y a une exposition jusqu'au 30 septembre concernant votre première voiture qui vous a transporté depuis votre naissance, puisque c'est une exposition sur les landaus. Vélo Stanlib, 250 vélos et 29 stations, 1276 abonnés de longue durée, moins 8,8%, dont 543 nouveaux abonnés. Alors les courtes durées, moins 9,4%, donc une baisse de 11% sur les prises de vélos, puisque nous passons à 169 557. Les recettes de fonctionnement, 463 euros. Et pour le fonctionnement, 650 000 euros pour Vélo Stanlib. Voilà, Président.
Merci. Il n'y a pas de vote sur ces... Voilà. Oui, Monsieur Donati.
Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, donc ça, c'est un compte-rendu intéressant parce qu'il est riche en chiffres et les chargés de mission ont fait un travail remarquable en nous fournissant tous ces résultats, entre guillemets. Monsieur le Président, nous avons un problème. J'ai envie bien que ça vous réveillerait. Donc, sérieusement, nous avons un problème avec le réseau Stan. Pourquoi ce problème? C'est parce que chaque année, il y a 250 000 kilomètres qui ne sont pas réalisés. C'est-à-dire qu'il y a des courses qui sont perdues et au-delà des kilomètres, ce sont des milliers de courses. C'est-à-dire que vous êtes devant votre arrêt de bus et le bus, il ne vient pas. Alors, quand on est dans un tram à une heure non de pointe, pas trop grave, parce qu'on sait que le suivant, moyennant les incertitudes, il va venir quelques minutes après. Mais si vous êtes devant un bus dans un réseau moins utilisé, si vous préférez, ben il va falloir attendre 20-25 minutes le suivant. Dites très clairement, votre rendez-vous, il est foutu. Hein? Donc ça, c'est un problème. Alors, si ce problème-là, on ne l'avait eu que cette année-ci, ben c'est tout, ça va se corriger. Mais apparemment, il y avait le même problème l'année précédente. Et il y a des soucis de dégradation. Donc, comment faire pour corriger? Alors, depuis le début, et je dirais c'est un petit peu la règle dans ce métier-là, à savoir qu'on attend du prestataire qu'il fournit une qualité de service. Pour cela, on définit des critères contractuels. Et si ces critères ne sont pas respectés, il y a des pénalités. Et les pénalités sont jugées suffisamment importantes pour que le délégataire, il n'utilise pas la pénalité comme une variable d'ajustement. C'est-à-dire que s'il paye peu, à la limite, mettez-moi les pénalités que vous voulez. Je continuerai parce que ça me coûte plus cher de corriger. Donc on peut se poser la question, est-ce que nous n'avons pas un problème de pénalité pas suffisamment importante? Alors, elles paraissent importantes, hein, puisque je rappellerai quand même que le délégataire, il perd plus de mémoire, sur les 220 000 euros par an, ce qui n'est pas rien, en fait, etc. Mais il ne corrige pas. Alors, donc évidemment, la métropole lui a dit, ça ne peut pas continuer comme ça, c'est tout à fait normal, c'est écrit dans le rapport, vous devez corriger. Et le prestataire, il nous dit, un des problèmes que j'ai, c'est l'absentéisme, notamment, et je vais améliorer le problème, c'est-à-dire, je vais réduire l'absentéisme. Bon, nous sommes maires, nous savons ce que c'est que l'absentéisme, et nous savons surtout combien c'est difficile de résoudre l'absentéisme. Donc on ne peut pas se contenter d'un délégataire qui nous dit « l'année prochaine, j'aurai amélioré l'absentéisme ». Ben, monsieur le délégataire, dites-moi comment vous allez faire. Hein? Donc moi, personnellement, je ne connais qu'une solution, elle est très douloureuse, ça s'appelle embaucher. Malheureusement, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc je pose la question, quelle garantie nous avons que le délégataire a vraiment la volonté d'embaucher, de résoudre le problème, parce que ça a quand même des conséquences. Il y a deux conséquences. La première, c'est que moi, personnellement, en tant qu'usager, je perds confiance dans mon réseau, surtout si je dois faire un changement, parce que ça veut dire que je loupe. Ça veut donc dire très concrètement qu'en tant qu'usager, sachant que je n'ai pas un réseau fiable, au lieu de prendre simplement 20 minutes de course, je vais anticiper, puis je vais venir au bus précédent, c'est-à-dire que ma course, au lieu de me prendre 20 minutes, elle va me prendre plutôt 30 ou 40 minutes. Ou alors, certains usagers, tout au moins là où je travaille, certains collègues m'ont dit, j'ai arrêté de prendre les transports en commun, je ne peux pas être sûr d'être à l'heure à la crèche pour mon gamin ou aller chercher ma fille à l'école, etc. etc. Or, nous allons investir sur les transports en commun, beaucoup. Donc nous avons absolument besoin de délégataires qui fassent leur boulot, entre guillemets, sérieusement. Je ne dis pas que c'est simple, hein, c'est un autre problème. Merci, Monsieur le Président.
Je pense que ces sujets n'échappent à personne et surtout pas à ceux qui nous représentent dans l'appel d'offres pour le renouvellement du délégataire qui est en ce moment. Donc tout le monde est parfaitement informé. Donc à l'occasion de questionner les deux candidats qui sont dans cette démarche concernés. Alors, il n'y a pas de vote sur ce... Alors, passons au rapport suivant. C'est Pierre Boileau. Réforme nationale de dépénalisation du stationnement.
Oui, merci, Monsieur le Président. La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, donc c'est la loi MAPTAM, je rappelle, du 27 janvier 2014, a institué ce qu'on appelle la dépénalisation du stationnement payant sur voirie, et ceci était applicable à compter du 1er janvier 2018. Dans ce cadre, la ville de Nancy a instauré, lors du conseil municipal du 25 décembre 2017, un forfait post-stationnement, dit FPS, pour non-paiement total ou partiel de la redevance tarifaire de stationnement en surface. Donc, au terme de la loi aujourd'hui, il y a deux recettes. D'une part, la redevance payée spontanément par l'usager qui revient à la commune, et d'autre part, le paiement du forfait du post-stationnement, dû en cas d'absence de paiement ou de paiement partiel de la redevance, qui doivent être, en vertu de l'article du CGCT, reversés à l'EPCI. La loi indique que les recettes issues du forfait de post-stationnement sont reversées en intégralité à l'EPCI, déduction faite des coûts liés à la mise en œuvre de ces forfaits. S'agissant de la première année de mise en œuvre de la réforme aux dépenses récurrentes liées à la récolte des FPS par la ville de Nancy, viennent s'ajouter les dépenses, en dehors du marché de Stretéo qui l'a mis en place, de traitement des réclamations, viennent s'ajouter les dépenses de mise en œuvre du dispositif, études initiales, mise à jour des eurodateurs, etc. La première année étant marquée par la montée en puissance des dispositifs, il est convenu avec la ville qu'un suivi régulier des dépenses et des recettes permettra de mettre en œuvre une clause de revoyure, et ce, dès l'année prochaine. Aussi est tel que la loi l'exige, il est soumis aujourd'hui au Conseil métropolitain une convention de reversement des produits des forfaits post-stationnement entre la ville et la métropole, prenant bien entendu en compte la déduction des coûts de gestion liés au FPS. Je rappelle que dans la convention, pour l'année 2018, il est dit que le montant reversé sera égal aux sommes perçues, moins 77%, liées aux coûts de mise en œuvre pour la première année. Mais la ville s'engage à ce que ce reversement des recettes issues des FPS compense à minima la probable diminution mécanique des autres amendes par la métropole. Donc, la métropole et la ville conviennent de délibérer à nouveau en 2019 pour ajuster, sur la base de données chiffrées définitives de 2018, le taux et le montant de reversement correspondant à l'année 2018. Je voudrais à cet instant souligner le travail important qui a été fait tant par les services de la métropole que de la ville, les discussions et les échanges que nous avons eus pour établir cette convention qui nous garantit aujourd'hui d'avoir des reversements qui seront constatés par l'exactitude des recettes et des dépenses. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire pour cette délibération.
Merci. Merci particulièrement à Pierre Boileau qui a assuré cette négociation toujours délicate, qui a préservé à la fois les intérêts et de la métropole et de la ville de Nancy. Pas d'opposition, d'abstention, adopté. Alors, Michel Canda, territoire à enjeu, pleine rive droite, et Serlin, bilan annuel.
Oui, Président, chers collègues, donc la SOLRM présente aujourd'hui la note de conjoncture 2017 et le bilan prévisionnel de la ZAC et Serlin à Séchamps. Concernant l'année 2017, on peut retenir que, s'agissant de la première phase, le programme de construction de logements collectifs et individuels se poursuit, avec également la réalisation de maisons par le promoteur Batimat, dont la livraison est en cours, avec quelques difficultés, d'après M. le maire de Séchon. Également, un nouveau programme de 20 logements porté par la société Accessit est en cours d'instruction. Dans un second temps, ce dernier proposera un programme d'habitat groupé sur l'îlot voisin I2. I, pas I2, hein, pas moche, c'est I2. Non. S'agissant de la deuxième phase, suite au démarrage des travaux de viabilisation en octobre 2016, des voiries provisoires des allées, des sureaux et de l'aubépine ont été livrés le 12 juillet 2017. Dans ce même temps, une commercialisation a débuté en 2016. Elle maintient son rythme puisque les îlots B4, B3 et C4 ont été attribués respectivement aux bailleurs sociaux SLH, MMH et le promoteur Batimat. Au vu du rythme de commercialisation soutenu des lots libres de la phase 2, les études de projet des phases 3 et 4 au sud de la ZAC ont été lancées en décembre 2017, avec un démarrage des travaux de la phase 3 pour la fin de l'année 2018, début 2019.
Très bien.
Le bilan global de l'opération présente un équilibre. Ah, je sens que le président est pressé, là. Avec les dépenses et les recettes à hauteur de 17,6 millions, soit une légère diminution de 583 165 euros. La participation de la métropole reste inchangée.
Merci, monsieur le rapporteur. Je pense que le maire de Séchamps, où est-il, le maire de Séchamps,
il est là.
Il est content, il me l'a dit. Il dit très bien aussi. Voilà, je mets donc aux voix. Pas d'opposition, d'abstention, adopté. Alors, nous passons de la Serlin aux fourches patibulaires, tant décriées tout à l'heure. Monsieur Michel Canda, avec sérénité et rapidité.
Oui, donc ça fait toujours rire, les fourches, le site des fourches patibulaires situé sur la rive gauche du canal à Maxéville a été répertorié comme un périmètre à enjeu dans le cadre de l'établissement de la convention cadre signée avec le PFL est destiné à bâtir une stratégie globale foncière pour l'agglomération. Ainsi, dans le cadre de cette convention, le PFL a acquis ce site en 2009 pour le compte de la métropole. Il avait été acquis dans le cadre de l'emplacement réservé au bénéfice du Grand Nancy pour la réalisation du projet Bouclage Nord, aujourd'hui abandonné. À ce jour, aucune procédure opérationnelle n'est envisagée sur ce site par la métropole. Son devenir sera précisé dans le cadre du PLUI en cours d'élaboration. Le site des fourches patibulaires est composé de 3 parcelles cadastrées, AD 5, 56, 59, situées route de Maxéville. Route de Metz à Maxéville, pardon. Le portage foncier arrive à échéance. Il convient de procéder à l'acquisition de ces parcelles représentant une superficie de 9 870 m². Les dites parcelles sont ainsi acquises pour un montant d'un million quatre, 1 532,52 €, majoré d'une TVA en devoir et en sus, conformément à l'avis de France Domaine.
Très bien. Le maire de Maxéville est content.
Il est content. Oui, faire remarquer à mes collègues que les fourches patibulaires n'ont pas toujours fait rire. C'était l'endroit où on pendait les grands Nancéens pendant le Moyen-Âge. Mais plus sérieusement, dire effectivement, Michel Canada dit qu'il n'y a pas de projet, mais je rajouterais qu'il n'y a pas encore de projet, parce que c'est quand même un terrain qui est porte d'entrée de la métropole. Donc voilà. Donc très heureux, Monsieur le Président, mais je voulais faire ce rappel historique.
Pas d'abstention adoptée, malgré l'intervention inopinée du maire de Maxéville. Alors, Jean-Pierre Urpeau, pour le compte de Valérie Debord.
Oui, donc il s'agit des conventions d'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ces conventions qui ont été actées sur une période triennale permettent aux bailleurs sociaux de bénéficier d'un abattement de 30% au titre de cet impôt sur le patrimoine concerné. Les organismes se sont fortement engagés pour la réalisation d'actions de renforcement sur la gestion du patrimoine et le lien social dans les quartiers. La loi de programmation pour la ville du 21 février 2014 a positionné les intercommunalités, donc le Grand Nancy, en tant que pilote du dispositif avec l'État et associé des communes. Ainsi, les programmes d'action des bailleurs sociaux pour l'année 2016 ont été validés de manière partenariale avec les communes, l'État, la métropole, dans le cadre des comités territoriaux qui sont organisés chaque année sur les quartiers. Or, depuis la signature de nos conventions, la loi de finances rectificative pour 2016 a modifié deux aspects du dispositif, d'une part la durée des conventions et d'autre part l'association des conseils citoyens. L'abattement de 30% sur la TFPB s'applique désormais sur la durée du contrat de ville, donc pour la période 2016-2020 et non plus seulement sur une période triennale. Et puis donc les conventions qui sont établies pour cette période doivent être mises en conformité par la signature d'un avenant actant ces deux changements. Donc la période d'une part et puis la participation. Enfin, l'avis des conseils citoyens, d'autre part, c'est l'objet de cette délibération.
Merci. Pas de remarques, pas d'opposition. Adopté. François Berner, protocole transactionnel entre Solorem et la société Fayat.
Oui, c'est un protocole. Hein, on en a passé un certain nombre. Et celui-ci porte sur la construction de l'École nationale d'art et de design sur le lot Gros œuvres. Comme toujours, une discussion équilibrée dans laquelle surtout les intérêts de la métropole sont préservés.
Merci. Développement universitaire. Alors, je n'ai pas passé au vote, pardon. Des oppositions, des abstentions adoptées. Vie étudiante, attribution de subventions.
Oui, je ne vais pas reprendre la totalité de ce qui figure dans la délibération. Quelques éléments nouveaux, mais un dont on a déjà parlé, qui est le partenariat avec le ministère des Armées. L'ensemble du sujet cybersécurité connaît aujourd'hui un développement considérable dans le pays, mais particulièrement sur la métropole du Grand Nancy. C'est un sujet très, très intéressant et très important qui est envisagé là. Pour le reste, il y a une série de manifestations pour des subventions qui sont globalement symboliques, mais auxquelles nos partenaires sont attachés.
Merci. Pas de remarque, pas d'opposition adoptée. En l'absence de Mme Piccoli, qui a fait un gros travail avec l'ensemble des organisations syndicales, j'ai une série de rapportés de transformations de poste. Je vois doucement, on a besoin de toi, ne tombe pas, ne chute pas. Sur ces problèmes de ressources humaines, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Alors nous allons, tu vois, tu écoutais derrière la porte certainement. Revenir en vous priant d'excuser et notre collègue et le président au rapport d'activité et de développement durable de la métropole. Et sans plus tarder, je passe la parole à Valérie Debord.
Merci, Monsieur le Président. Un rapport qui est inédit, évidemment, dans un contexte de projet métropolitain et qui nous permet de mettre en perspective l'intégralité de nos actions, notamment sur l'ensemble des volets que sont, bien sûr, la sobriété énergétique, mais aussi les nouveaux modèles de développement économique sur lesquels nous avons fait un certain nombre d'expérimentations. L'habitation, avec toute la partie qui nous permet de construire des habitats durables et qui permettent une valorisation énergétique pour l'ensemble des habitants, mais également une métropole nature, une métropole bien vivre, une métropole où chacun a envie de créer du lien social. L'empreinte du développement durable sur le Grand Nancy, elle se déroule autour du plan climat, air, énergie territoriale, avec des chiffres en progression qui permettent de voir le travail qui a été réalisé, avec des dispositifs également structurants, les certificats d'économie d'énergie qui sont délivrés sur notre communauté urbaine puis métropole depuis 2012 à destination de plus de 4000 personnes, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, qui ont permis plus de 1 milliard de kilowattheures économisées, c'est exceptionnel, 10 000 tonnes de CO2 évitées. Donc tout ça, c'est pour nos enfants des crises d'asthme évitées, c'est pour le bien-être et la qualité de vie, évidemment quelque chose de complètement positif. 4 millions d'euros d'aides financières attribuées à des habitants qui, au travers des travaux qu'ils réalisent, bénéficient de ce dispositif. Deux dispositifs, deux espaces d'accueil à destination tant des habitants que des entreprises qui souhaitent réaliser des travaux. La Maison de l'Habitat et du Développement Durable, qui est extrêmement fréquentée et avec laquelle nous avons proposé de nouer des partenariats à 7 associations qui tiennent des permanences régulières pour être à la rencontre des concitoyens qui le souhaitent. Et puis la LEG, bien sûr, qui accompagne 218 familles dans le cadre de dispositifs d'énergie positive. C'est une dynamique collective que nous enclenchons depuis 2005, avec ce bilan que nous vous présentons ce jour. Moins 15% de consommation énergétique finale, moins 15% d'émissions directes de gaz à effet de serre. Tout ça, c'est de l'effet positif direct sur notre santé, bien sûr, mais également sur une façon d'appréhender la ville durable de demain et la façon dont, ensemble, nous luttons contre les émissions de poussière et contre les oxydes d'azote. Et vous avez les pourcentages par rapport à la qualité de l'air qui vous sont présentés sur le petit slide, avec des pics de pollution qui, malheureusement, sont néanmoins toujours présents, puisqu'ils tournent autour de 10 par jour, c'est la moyenne de 2016. De 10 par an, pardon, c'est la moyenne de 2016. Et puis les engagements importants à destination de nos concitoyens qui ont été pris, avec l'achat groupé électricité et gaz, et ça permet d'avoir mis en place deux groupements à l'échelle de la Lorraine qui sont gérés par notre métropole, plus de 140 membres pour le gaz, plus de 90 membres pour l'électricité, et ça c'est vraiment un effet positif extrêmement intéressant pour notre territoire. De labellisation territoire énergie positive, avec notamment l'aide au renouvellement des anciens poêles à bois. Ça, c'est une démarche qui fonctionne extrêmement bien. Et l'ensemble des habitants qui ont l'information, je vous encourage d'ailleurs à la relayer, sont extrêmement contents de l'aide intéressante qui leur est fournie en la matière. Des bornes de recharge pour les véhicules électriques, évidemment, avec un groupement de commandes interopérabilité et la maintenance pour le développement du réseau sur la Meurthe-et-Moselle et plus de 20 communes. Et puis, la plateforme de rénovation de l'habitat, qui permet de stimuler le marché et de l'accompagner, de professionnaliser les particuliers depuis 2017. Donc, on le voit, un ensemble de politiques qui n'est pas un agglomérat de dispositifs qui serait en tuyau d'orgue, mais une vraie politique qui irrigue l'ensemble de nos politiques publiques, telles que le contrat métropolitain a pu vous le démontrer.
Elle a terminé. Elle manque pas de souffle en revenant de Strasbourg, comme ça. C'est une belle leçon d'efficacité. Avez-vous des questions à poser? Pas de questions. Il n'y a pas de vote sur ce rapport d'activité. Alors, Monsieur le Président du Conseil de développement, vous voulez nous délivrer quelques beaux messages pour conclure notre après-midi?
Monsieur le Président, je vais il m'est donné l'occasion de vous faire un rapide aperçu de nos méthodes de travail au travers de notre rapport d'activité 2017. Car avant de pouvoir livrer notre vision sur un dossier, il doit être anticipé le plus en amont possible dans les saisines. En effet, nous avons besoin d'un temps incompressible. Ce processus est fait de phases d'acculturation, nous ne sommes pas omniscients, de discussion et de rédaction en groupe de travail, et enfin de validation. C'est un processus itératif de qualité démocratique. En ce qui concerne l'acculturation, nous avons auditionné bon nombre d'experts et d'acteurs du territoire. Je ne les citerai pas tous, mais parmi eux, Marc Benoît, qui est directeur de recherche à l'INRA de Nancy, sur les conséquences de nos choix alimentaires sur les paysages et la santé. Samuel Nowakowski, qui est chercheur au Lauréat, pour nous s'approprier les impacts sociétaux du numérique. Vincent Passini, docteur en économie et professeur associé à la chaire de prospective et de développement durable du CNAM. Et enfin, Denis Moreau, vice-président de l'association Rue de l'Avenir pour des questions de mobilité. Nous organisons aussi des visites de terrain pour mieux connaître le territoire métropolitain, comme l'école de chirurgie de Nancy, la ferme expérimentale de la Bouzule. Nous avons aussi lancé une expérimentation originale, commencée en 2015, et donc on va entamer la quatrième année, qui s'appelle Grand Nancy 2050. C'est un exercice de prospective en partenariat avec l'Université de Lorraine et les écoles. L'objectif étant d'associer les jeunes générations à la construction du projet de société et de favoriser une hybridation culturelle entre les différentes disciplines. Des travaux ont été menés sur la sécurité alimentaire, les mobilités de demain, le bien vivre. Les travaux de l'année 2017 sont conclus par une plénière, ici même, au mois de juin, où les étudiants présentaient leurs travaux devant les membres du Conseil, les élus aussi, et les services de la métropole. Une exposition s'est tenue dans le hall Kennedy pendant quelques semaines. Elle est actuellement visible à la bibliothèque universitaire du campus de Lettres et va circuler. Sur les travaux qui ont été présentés en 2017, deux font, notamment sur les mobilités, font l'objet de développement industriel et de création d'entreprises étudiantes et de dépôts de brevets actuellement. En 2017, nous avons commis quelques contributions, un travail en réseau avec le CESER et les conseils de développement du Grand Est, qui était d'ailleurs un travail unique au niveau national, un livre blanc vers de nouvelles formes d'expression citoyenne qui a permis un croisement des regards des différentes instances participatives du Grand Est pour proposer des outils d'aide à la décision et des fiches pratiques sur la formation citoyenne, l'information, la capitalisation des initiatives et l'évaluation des politiques publiques. Nous avons aussi produit une réflexion dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. La métropole ayant la compétence en économie, il nous paraîtrait juste d'y mettre un avis. Une implication forte dans le processus de concertation sur le renouvellement et l'extension de la ligne 1 du tram, en collaboration avec le Conseil de la vie étudiante. Une méthode qui a permis un croisement des regards entre les deux instances et en plusieurs phases, dont l'animation d'un atelier public sur les aménagements et les services de demain. Pour conclure, tout ce foisonnement d'idées ne serait pas possible sans, la forte implication des membres du Conseil, évidemment, les moyens humains et budgétaires que vous mettez à notre disposition, et enfin et surtout les bonnes relations que nous entretenons avec les élus et les services en charge des diverses thématiques que nous abordons, les échanges et les débats que nous pouvons avoir avec eux, et bien entendu, Madame Danielle Noël et Malika Dati qui suivent nos travaux. Je voudrais me permettre partager un petit temps d'actualité. Monsieur le Président, vous avez fait part tout à l'heure de votre inquiétude sur l'Europe. Et je voudrais donc vous faire part d'une expérimentation d'animation du débat public que nous avons lancée. En effet, nous avons lancé une plateforme de débat numérique dans le cadre de la consultation sur la refondation de l'Europe initiée par le Président de la République. Notre plateforme, Quelle est l'Europe qui vous fait rêver ? A été labellisée par le Secrétariat général aux consultations citoyennes de l'Europe, rattachée au ministère des Affaires étrangères. Et nous sommes accompagnés par une start-up lorraine, Carte au débat. Donc je vous invite à venir apporter votre regard et contribuer sur les différentes thématiques et faire connaître notre outil. Je vous remercie.
Bon, les membres de votre conseil sont heureux, ils ne travaillent pas trop, ou ils estiment qu'on tient assez compte de leur point de vue. Bon, tout est exigeant en ce moment. Bien, mais écoutez, il n'y a naturellement pas de vote. Nos remerciements vont au président et à son assemblée. Vous voyez, en commençant plus tôt, en regrettant quelques absences aujourd'hui, dont l'explication, j'ai cru comprendre qu'il y avait à l'intérieur des sensibilités des regards croisés, quoi. Hein ? Et que chaque fois qu'il y a des élections ou des successions, c'est toujours un petit problème délicat. Voilà, la séance est donc levée. Ceux qui n'auraient pas compris, je peux les renseigner à l'issue de la réunion. Ben, venez me voir, on est au confessionnal. Allez, bonne soirée à toutes et un peu d'humour, détendez-vous. Ha, 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 ha.